Vous êtes sur RTL.
Bonjour.
Et très bonne journée à vous Julien et à toute l'équipe de nos petits matins. Bonjour à tous. Brigitte Macron est donc ce matin l'invitée d'RTL. L'épouse du président de la République lance sur notre radio la nouvelle édition des pièces jaunes au micro d'Alba Ventura à 7h40. Au cœur de ses préoccupations, les violences sur les enfants qui ont décuplé pendant le confinement et bien entendu aussi l'inceste avec les chiffres effarants que nous avons découverts récemment. Brigitte Macron évoquera aussi l'épidémie de Covid. Rappelons que son mari comme elle ont été touchés. Une interview singulière en ce jour particulier puisque ce soir à 18h heure française, c'est enfin l'investiture du 46e président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, et nous ne nous priverons pas d'un grand quart d'heure américain à 8h15. La rédaction est mobilisée, la politologue Nicole Bacharan sera avec nous. Quel bilan de la présidence Trump et que peut-on espérer de l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche? Voilà pour le menu essentiel de cette matinale. Et si avec tout ça, vous en demandez encore, et bien juste avant 9h, vous pourrez découvrir les boulettes de Cyril Lignac. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2021. Très bonne journée sur RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
L'Amérique s'apprête donc dans quelques heures à tourner la page. Un président arrive, un autre s'en va.
Et pour la première fois, ils ne se croiseront pas. Signe d'une passation qui ne ressemblera à aucune autre, sans public et sous très haute sécurité, direction Washington, dès le début de ce journal. L'inquiétude en France après la mort de 5 personnes qui venaient d'être vaccinées. Les autorités se veulent pourtant rassurantes. L'ouverture des soldes d'hiver ce mercredi dans un contexte économique plombé. Et puis, jamais sans ma voiture, nous vous dévoilerons cette étude de l'INSEE qui vient quelque peu bousculer le discours ambiant. Non, les Français ne vont pas tous travailler à vélo.
La politique, Olivier Bost.
Dans la crise sanitaire, il est impossible d'avoir des certitudes. Résultat, pour gouverner comme pour critiquer, c'est plus difficile, hasardeux même.
On vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Il sera 18h tout à l'heure, heure française, lorsque Joe Biden prêtera serment sur les marches du Capitole, la main gauche posée sur une Bible qu'il aura lui-même choisie, c'est la tradition. Il deviendra alors officiellement le 46e président des États-Unis. Cérémonie particulière cette année, sans public, pour cause de restrictions sanitaires et particulièrement surveillée par crainte de débordement. Nous y reviendrons en quelques instants. Journée historique à Washington, malgré les apparences presque funèbres. C'est un reportage de Brise du Génie.
Avec une enceinte portable, un habitant de Washington tente de réchauffer l'atmosphère d'une ville habituellement festive un jour d'investiture. Mais aujourd'hui, le cœur n'y est pas. Sur son vélo, Kurt regarde le Capitole derrière les grilles et les blocs de béton, loin de l'ambiance qu'il a connue.
It's a very big thing because
d'habitude, il se passe plein de choses. Il y a des célébrités, des galas un peu partout dans la ville. Et tout cela n'est pas possible aujourd'hui. Ça me fend le cœur. Je me souviens pour Obama. J'y suis allé avec mes filles. C'était excitant, formidable. Les gens étaient heureux. Il y avait une énergie positive. Alors que là, on va suivre la cérémonie à la télé.
Aujourd'hui, pas de fête, pas de public, mais des militaires et des masques. Malgré ce climat délétère, Fiaka, jeune femme d'une trentaine d'années, attend beaucoup de cette journée qu'elle suivra comme tout le monde à la télé.
C'est triste. Les circonstances sont tristes à cause du Covid et de ce qui s'est passé au Capitole. Mais je vois aussi cela comme un espoir de changement, que les choses s'arrangent et que le président unisse le peuple. J'imagine que cela va se passer comme ça. On va voir.
Une cérémonie d'investiture attendue pour tourner définitivement la page Donald Trump.
Brise du Génie, l'un des envoyés spéciaux de RTL à Washington pour couvrir cette investiture. Je vous le disais, placée sous très haute sécurité. 2 semaines après l'assaut du Capitole par des militants pro-Trump, 25 000 soldats et des milliers de policiers seront déployés dans toute la ville. Leur profil a été soigneusement sélectionné car Lionel Gendron, c'est l'un des scénarios redoutés, que l'ennemi vienne de l'intérieur.
C'est la crainte absolue des services de sécurité qu'un policier ou un membre de la garde nationale retourne son arme contre des officiels ou même le président des États-Unis. C'est pourquoi le FBI a vérifié les antécédents de tous les gardes nationaux pour voir s'il y a une faille. Un travail colossal, 25 000 de ces réservistes sont déployés à Washington pour l'investiture. Résultat de ces enquêtes accélérées, 12 gardes nationaux ont été sortis du dispositif. 10 d'entre eux ont eu une activité douteuse avec des milices, des groupes d'extrême droite ou ont publié des messages de sympathie sur les réseaux sociaux. Pour 2 autres de ces soldats, c'est encore plus problématique. Ils avaient émis des commentaires sur la cérémonie d'investiture en elle-même. Le Pentagone a confirmé, précisant qu'il ne s'agissait pas de menaces directes envers Joe Biden. Ce travail de vérification est rassurant parce qu'il a été effectué, inquiétant pour ce qu'il révèle.
Et voilà, et sachez que depuis le 6 janvier, 70 manifestants ont été inculpés pour avoir participé aux violences du Capitole, et parmi eux notamment des membres des forces de l'ordre. Et puis cette dernière minute, on apprend à l'instant que Donald Trump choisit de gracier son ancien conseiller Steve Bannon, qui avait quitté la Maison Blanche accusé d'avoir détourné des fonds. Si Steve Bannon était condamné, cette grâce présidentielle viendrait donc annuler les charges, une grâce à quelques heures de la fin de son mandat.
Nous retournerons à Washington à 8h15, page spéciale États-Unis à l'occasion de cette cérémonie d'investiture, mercredi 20 janvier 2021, le jour où Joe Biden est devenu président des États-Unis. Ce sera notre quart d'heure américain. Dans le reste de l'actualité, il y a ces questions sur soulevé chez nous en France par 5 décès récents des personnes qui venaient d'être vaccinées.
Elles sont mortes quelques jours pour certaines, quelques heures seulement après avoir reçu la première injection. Les anti-vaccins y verront probablement un effet secondaire. C'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Agathe Landais, on ignore pour l'instant s'il existe un quelconque lien entre les décès et ce vaccin.
Oui, et c'est ce que vont tenter d'établir désormais les autorités de santé. Comprendre si réellement ces 5 personnes ont perdu la vie à cause de cette vaccination. Parce qu'il s'agit de 5 patients très fragiles, tous âgés de plus de 75 ans, souffrant de comorbidité, de lourds problèmes de santé. Il est donc très difficile d'affirmer avec certitude que ces 5 décès ont vraiment un lien avec le vaccin contre le Covid. D'autant que tous les 5 vivaient en EHPAD. Et l'on sait que dans ces établissements, la mortalité est très forte, même hors épidémie. L'Agence de sécurité du médicament, l'ANSM, surveille de très près comment réagissent toutes les personnes qui se font vacciner, leurs effets secondaires et évidemment les décès jugés suspects, ceux qui surviennent dans les heures ou les jours qui suivent la vaccination. Et la conclusion de l'ANSM hier soir, c'est qu'il ne faut absolument pas s'alarmer. À ce stade, je cite, « rien ne permet de conclure que ces décès ont un lien avec la vaccination. »
Agathe Landais, 580 000 personnes, c'est le nombre de patients vaccinés désormais en France. Trop peu, trop long pour l'opposition qui a une nouvelle fois taclé hier Jean Castex et sa stratégie. Cessez d'affoler, leur a vivement répondu le Premier ministre qui promet la transparence sur la répartition des doses. Nouveau conseil de défense ce matin au cours duquel sera notamment abordée la question des stations de ski et de leur remontée mécanique. Sauf énorme surprise, elles ne devraient pas rouvrir pour les vacances de février. C'est toute une industrie qui se retrouve à l'arrêt. Et un drame pour des milliers de saisonniers dont les contrats n'avaient pas encore été signés et qui ne bénéficient donc pas du chômage partiel. Pierre est l'un d'entre eux.
C'est très compliqué pour moi même de me nourrir, juste de me nourrir. Je ne vais pas voler dans les magasins. Moi, je mange des pâtes tous les jours. Ma maman m'envoie 40 euros quelquefois pour mes besoins quotidiens. Elle a une petite retraite. Je ne veux pas devenir SDF. Pour moi, c'est la peur. Si les remontées mécaniques n'ouvrent pas, on est tous morts là. Monsieur Macron, Monsieur Castex, pour les saisonniers qui sont sans contrat, sans rien du tout là, vous faites quoi de nous là? Vous nous oubliez ou vous faites quoi?
Le témoignage de Pierre qui comptait donc entamer une saison à la Plagne, recueilli pour RTL par Serge Pueyo. Il avait jusqu'ici toujours nié les faits. Jean-Marc Reiser reconnaît avoir tué Sophie Le Tan, même s'il réfute le caractère prémédité de son acte. La dépouille démembrée de la jeune étudiante avait été retrouvée en octobre 2019 dans une forêt du Bas-Rhin.
RTL 7h07, ce sont 4 semaines cruciales qui démarrent pour les petits commerçants. Top départ des soldes ce mercredi.
Avec des stocks automne-hiver qui débordent dans les rayons, 3 mois de fermeture au total l'an dernier et un couvre-feu qui rend les ventes actuellement plus difficiles. Cette période de promotion qui s'ouvre aujourd'hui s'annonce effectivement capital pour maintenir à flot les trésoreries. Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
Les enseignes ont enregistré une perte d'activité de plus de 26% en magasin en 2020 du fait des deux confinements. C'est déjà plus de 7000 emplois qui ont été supprimés dans notre secteur. C'est une perte extrêmement lourde et notre crainte, c'est que la crise perdurant, que ce chiffre augmente encore en 2021. On espère véritablement que malgré la crise, les soldes 2021 resteront un moment de fête. Et nous demandons au gouvernement un coup de pouce, un soutien en autorisant les ouvertures sur les 4 dimanches des soldes à venir.
Propos recueillis par Armel Lévy. Il y a les perdants et il y a les grands gagnants de cette pandémie. Et Netflix en fait partie. La plateforme de vidéo aura su largement profiter du confinement et des longues soirées canapés, voire des journées entières canapés. Oui. 200 millions d'abonnés dans le monde, dont près de 7 millions chez nous en France. Le groupe n'a désormais plus besoin de financement extérieur. Une enquête pour terminer ce journal qui pourrait bien tordre le cou à quelques discours actuels sur l'amour immodéré des Français pour le vélo. Certes, les ventes ont augmenté, le nombre de pistes cyclables a explosé. Pourtant, selon une étude de l'INSEE, trois quarts des Français continuent de prendre leur voiture pour se rendre au travail. Ils sont seulement, écoutez bien, 2% à utiliser la bicyclette. Les temps changent peut-être, mais certaines habitudes ont la vie dure, Eric Vanier.
Oui, même sur des distances courtes, l'automobile reste indétrônable. La moitié des personnes ayant moins d'un kilomètre à faire entre leur domicile et leur lieu de travail avouent utiliser leur voiture. Elles se justifient en expliquant qu'elles ont besoin de leur véhicule dans le cadre de leurs activités professionnelles ou qu'elles ont des motifs familiaux impérieux, comme avant et après le travail, aller chercher les enfants à l'école ou faire des courses. Il n'y a qu'à Paris, en fait, et en petite couronne, que la voiture est devancée par les transports en commun. Partout ailleurs, les automobilistes restent très majoritaires. Dans les agglomérations de moins de 50 000 habitants, où souvent les transports publics sont peu développés, l'usage de la voiture pour aller travailler frôle même les 95%. Les plus accros au volant sont d'ailleurs les agriculteurs, les artisans et les commerçants, alors que les cadres ne sont que 49% à conduire, adepte plutôt des transports en commun, du vélo et de la marche à pied, par conviction, mais aussi souvent parce qu'ils habitent en ville et pas très loin de leur lieu de travail.
Éric Vanier.
Intéressant ces chiffres. Les courses, elles ont lieu à Cannes-sur-Mer.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Attention, le 9 est non partant. Le 2, le 13, le 6, le 12, le 7 et le 4. La dernière minute, c'est le 6 d'Annika.
Et c'était le journal de Dominique Tenza. 7h10, la politique avec vous Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Olivier, qu'il est dur de faire de la politique et de suivre l'opinion en ce moment, c'est votre constat du matin.
Oui, les intuitions peuvent être trompeuses avec cette épidémie. Sur de nombreux sujets, les vérités d'un moment ne sont plus celles du lendemain. L'opinion des Français devient aussi trompeuse si on s'en tient au sondage. La politique devient une matière molle où ce qui accroche un jour est atténué ou démenti le lendemain.
Alors donnez-nous quelques exemples.
Alors le plus flagrant, c'est le sujet de la vaccination. Le gouvernement a fait ses premiers choix avec la peur des anti-vaccins, à tel point qu'à ce jour, Emmanuel Macron n'a toujours pas appelé officiellement à se faire vacciner. Or, les anti-vaccins n'ont toujours été et ne restent qu'une minorité. Et entre-temps, environ 20% des Français sceptiques, selon les études, ont changé d'avis sur les vaccins en moins d'un mois. De mémoire de sondeur, dans l'histoire récente, sur un sujet aussi partagé, c'est du jamais vu. Et si nous élargissons la période et que nous regardons sur 6 mois, à la sortie du premier confinement, les 2/3 des Français voulaient à ce moment-là se faire vacciner. Dans cette crise, nos convictions font du yo-yo et même pour les oppositions, c'est difficile.
Donc, avec de tels mouvements d'opinion, avoir des certitudes pour nos responsables politiques est nettement moins évident, c'est ça ?
Bah oui, par exemple, pour le Rassemblement National, ils ont dû revoir leurs critiques en cours de route, notamment sur la vaccination. Et ils ont beau tous vous dire qu'ils ne pilotent pas au sondage, qu'avec leur connaissance du pays, des Français, leur histoire politique, ils n'ont pas besoin de sondage. En fait, il faut pour tous moins suivre l'opinion que comprendre ce qui se passe. Et comprendre ce qui se passe en ce moment est compliqué. Je vais vous donner un autre exemple, le passeport vaccinal. L'idée est que pour pouvoir retrouver une vie normale, aller au restaurant, au cinéma, partir en vacances, il faudra montrer son passeport tamponné Covid. Tout le monde sur l'échiquier politique le refuse, majorité comme opposition aujourd'hui, sauf l'UDI de Jean-Christophe Lagarde, une façon de se distinguer pour ses centristes. Mais les 6 Français sur 10 qui veulent un passeport vaccinal aujourd'hui risque d'attendre encore un peu.
Comment expliquez-vous tous ces décalages ?
Alors, par la nature même de l'épidémie, les certitudes scientifiques d'abord sont fragiles. Vous entendez chaque matin sur RTL la prudence des plus grands spécialistes. À partir de ce constat, faire de la politique est devenu assez hasardeux. Même Emmanuel Macron revendiquait la semaine dernière de gouverner à la semaine, de changer de stratégie, d'alterner entre pilotage local et pilotage national. Hier, au vœu aux armées à Brest, le chef de l'État a résumé cette période étrange. Le chef de l'État a dit « Avec l'impatience, on ne voit que le quotidien. Chaque jour, on peut expliquer comment on pouvait gagner la guerre d'hier. N'oublions jamais le temps long », a-t-il conclu. Ça valait pour les militaires et ça vaut pour tous les Français.
Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur le site RTL.fr. Notre rendez-vous tout à l'heure à 7h40, je vous le rappelle, sera avec Brigitte Macron, qui est présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Elle répondra aux questions d'Alba Ventura à l'occasion du lancement de la 32e opération Pièce Jaune, mais elle abordera bien entendu beaucoup d'autres sujets et d'autres dossiers. Dans un instant, nous allons faire le point avec notre brigade de l'actualité sur le démarrage des soldes qui débute aujourd'hui pour 4 semaines. Nous serons aussi avec Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations, pour faire un point sur l'épargne des Français et notamment notre fameux livret A. A tout de suite.
Calvi, RTL Matin.
Avant de retrouver le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui, ce mercredi 20, démarrent les soldes d'hiver. C'est parti pour 4 semaines de rabais avec, nous dit-on, beaucoup de stocks chez nos commerçants. On va vérifier tout cela avec notre brigade de l'actualité. Bonjour Armand Lévy.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste consommation à la rédaction. Que représentent les soldes en termes de chiffre d'affaires pour les commerçants?
Les soldes d'hiver et d'été représentent au total 30% du chiffre d'affaires annuel des commerçants. C'est le seul moment dans l'année où ils ont le droit de vendre à perte, donc au prix qu'ils veulent, afin de refaire leur trésorerie pour racheter la nouvelle collection. Les soldes, c'est une fête commerciale, sauf que cette fois, avec les restrictions, nombre de personnes limitées dans les magasins, port du masque obligatoire, couvre-feu et morosité ambiante, les Français ont le moral dans les chaussettes.
On pourra quand même faire de bonnes affaires, Armel ?
Mais oui, ça a déjà commencé avec les ventes privées, avec des rabais de moins 50 à moins 60%. En fait, comme les chausseurs et les magasins de vêtements ont dû fermer pendant les deux confinements, les ventes ont été catastrophiques l'année dernière. Ils ont perdu en moyenne un quart de leur chiffre d'affaires sur l'année, donc leur collection d'hiver leur reste sur les bras. Les grandes chaînes de magasins ont pu revoir leurs commandes à la baisse, mais d'autres, beaucoup d'indépendants qui avaient tout commandé en une fois, eux, ils regorgent de stock. Autant dire qu'eux ne cherchent pas à faire de la marge, ils veulent juste récupérer ce qu'ils peuvent, et c'est pour eux que les soldes ont été décalés du 6 au 20 janvier, pour que les plus petits puissent vendre à prix fort un maximum avant de tout brader.
Les soldes pourront-ils rattraper la saison, Armel ?
Non, un quart de chiffre d'affaires perdu, ça ne se rattrapera jamais. Dans le secteur de la chaussure, on compte 4000 emplois menacés et 7000 emplois déjà supprimés en 2020 dans l'habillement. Mais ils espèrent tenir en attendant des jours meilleurs puisque les Français ont moins consommé, donc ils ont de l'argent sur leur compte épargne.
Alors par ailleurs, cette crise sanitaire semble avoir entraîné de nouvelles habitudes de consommation.
Oui, avant la crise, en magasin, les clients étaient beaucoup plus flâneurs. Ils visitaient plusieurs enseignes avant d'acheter, c'était un shopping plaisir avec aussi des achats d'impulsion. Aujourd'hui, les clients préparent en amont leur venue en magasin, ce sont des achats anticipés. Ils se déplacent moins, mais quand ils viennent, ils repartent plus souvent avec un produit. Et ils fréquentent moins les centres-villes et les centres commerciaux. Ils privilégient les zones commerciales à ciel ouvert, facilement accessibles en voiture, situées en périphérie.
Merci pour cette photographie, Armelle Lévy. Et bien justement, pour relancer l'économie et se faire plaisir avec les soldes, les Français vont-ils piocher dans leur épargne? On en parle avec l'invité de cette matinale. Bonjour Eric Lombard.
Bonjour Yves Calvi.
Vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Peut-être pour commencer, pourriez-vous nous donner une photographie globale de l'épargne des Français en 2020? On a battu un record en matière d'épargne cette année?
On a battu un record. Les Français ont épargné sur le livret A 35 milliards d'euros. Ça représente 50 euros par mois et par livret. C'est un record depuis 2012. C'est énorme.
On n'avait jamais vu ça, nous sommes d'accord?
On n'a jamais vu ça. C'est lié au fait que les Français n'ont pas pu consommer à cause des confinements, à cause des magasins fermés. Donc c'est une épargne qui est vraiment forcée, qui est contrainte.
Est-ce qu'on a une idée, enfin aussi une photographie sociologique de l'épargne? Est-ce que tous les Français, ceux qui ont des moyens ou ceux qui vivent plus dans la difficulté, ont mis quelques sous sur leur livret A? Effectivement, est-ce que ça concerne tout le monde?
Alors 55 millions de Français ont un livret A, ouais. Donc tout le monde a un livret A. Sans surprise, les gens plus aisés ont de l'argent, c'est tautologique. C'est-à-dire que 70% de l'épargne est détenue par 20% des Français, ouais. Et un tiers des livrets sont livrés à moins de 50 euros. Mais tout le monde est concerné par l'épargne, tout le monde a un peu d'épargne.
Donc même ceux qui vivent dans la difficulté avec des fins de mois parfois difficiles ne sont pas allés taper dans leur épargne a priori?
Alors ceux qui sont dans la difficulté ont tapé dans leur épargne cette année parce que c'était plus difficile et les gens plus aisés, eux, ont épargné plus.
Comment expliquez-vous cet attrait, voire cet engouement qui ne baisse pas pour le livret A?
Le livret A, c'est un très bon produit. D'abord, c'est un produit qui est très sûr. La rémunération est positive. En ce moment, les taux sont négatifs. Comme vous savez, souvent, quand vous placez de l'argent, ça vous coûte. Là, la rémunération est positive. Et ça fonctionne comme un compte en banque. Vous mettez de l'argent chaque mois, vous pouvez même en retirer chaque jour. Donc, c'est très souple.
Eric Lombard, la rémunération, elle est extrêmement faible.
Elle est de 0,5%, mais l'inflation est négative. Donc, ça assure une croissance de la valeur économique de votre épargne, du pouvoir d'achat de votre épargne.
Vous savez que beaucoup d'économistes s'inquiètent du fait que les Français thésaurisent trop, d'une certaine façon, alors que l'économie a besoin de flux d'argent et de soutien aux entreprises.
Je suis d'accord, je préférerais que cet argent soit dépensé. Mais pour cela, il faudra qu'on sorte du confinement. J'espère que ça va arriver vite, mais pour le moment, on n'y est pas encore.
Alors, l'autre question, c'est que faites-vous de notre argent? Comment la Caisse des dépôts et consignations utilise-t-elle cette réserve d'épargne?
Eh bien, cet argent, il ne dort pas, il permet de financer la vie quotidienne des Français. Vous regardez un HLM, il est financé par le livret A. Le bus propre de votre ville, l'école qui a été rénovée, la rénovation thermique de votre mairie où on a changé les fenêtres, tout ça c'est l'argent du livret A. Donc cet argent il retourne près des Français pour soutenir leur vie quotidienne.
Ça veut dire par exemple que les projets de logements sociaux peuvent bénéficier de cette manne financière ?
Il faut construire plus de logements sociaux. 18% des Français vivent dans les HLM et on a un programme important à la fois de rénovation des logements sociaux et de construction parce que les nouveaux modes de vie avec les familles qui se séparent, oui, puis avec les jeunes qui quittent leur famille, il faut plus de logements.
En revanche, est-ce que nous finançons d'une quelconque façon les plans de sauvetage et de relance du gouvernement ? Les Français entendent des chiffres absolument astronomiques sur ce qui a été mis sur la table et d'avis général, c'était absolument nécessaire. Est-ce que le livret A y contribue ?
Alors, le livret A contribue au plan de relance. Dans le plan de relance qui est piloté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, il y a 70 milliards de financements nouveaux qui sont cette épargne. Et donc, vous voyez que ces 35 milliards qu'on a eu cette année, ça va financer le plan de relance.
Alors, on évoquait les soldes il y a quelques instants avec Armelle Lévy. Est-ce que vous avez des projections sur ces soldes, par exemple ? Pensez-vous que les Français, là, pourraient s'autoriser à les piocher légèrement dans leur livret A pour pouvoir profiter de ces soldes ?
Il faudrait qu'ils le fassent parce qu'encore une fois, 35 milliards de plus, c'est beaucoup plus que les autres années. Ça fait des fonds disponibles. Et on constate d'ailleurs, les premiers chiffres de ce début d'année montrent que probablement les Français sont tentés de le faire. On voit que la consommation frémit. Oui. Dès que les magasins pourront rouvrir plus largement, ça repartira.
En gros, dès que ça se libère un peu, les Français consomment, pour dire les choses simplement.
Ils vont utiliser cet argent pour consommer et c'est très positif pour eux et c'est positif pour l'économie, bien sûr.
Alors, 35 milliards est le chiffre de l'année, mais quelle est la somme globale que représente l'épargne des Français aujourd'hui pour la Caisse des dépôts ?
Alors, le livret A, c'est 450 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est presque un quart. Un quart de la richesse nationale créée chaque année. Donc, c'est très considérable. Mais les Français sont des gens qui épargnent beaucoup. En réalité, près de 20% des revenus annuels sont épargnés par les Français. Parce qu'il y a le livret A, il y a les dépôts sur les comptes en banque, il y a l'assurance vie, il y a les placements directs sur les marchés financiers.
Donc, les Français sont plus des fourmis que des cigales, si je vous suis bien.
En fait, nous sommes un pays d'épargnants, nous sommes un pays d'écureuils.
Un pays d'épargnants et d'écureuils. Merci beaucoup, Éric Lombard. Nous avons découvert ces chiffres avec vous. Donc 35 milliards épargnés par les Français en cette année bien particulière. Et je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Merci de nous avoir donné ce matin ces chiffres en exclusivité sur RTL. Bonne journée à vous.
Merci,
et continuez de compter nos sous.
Merci beaucoup.
Dans un instant, météo, grosse tête et pépite musicale avec Anthony Martin.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h24, Anthony Martin, quel plaisir de vous retrouver, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et bien entendu, comme chaque jour, nous attendons notre pépite musicale quotidienne.
Alors dans quelques heures, l'hymne américain résonnera sur les marches du Capitole à Washington. Ce sera un des temps forts de la cérémonie d'introduction de Joe Biden et Kamala Harris. Cet hymne, The Star Spangled Banner, la bannière étoilée, a la réputation d'être très difficile à chanter. Il faut plus d'une octave dans la voix et l'exercice est périlleux parce que rien n'est pardonné. Il ne faut ni la modifier, ni bousculer la chanson et dans le même temps, il faut honorer l'Amérique, quoi. Il faut l'incarner. Stravinsky avait fait son propre arrangement, il a failli aller en prison d'ailleurs. Pour relever ce défi tout à l'heure, on lui souhaite un autre sort, l'équipe de Joe Biden a choisi Lady Gaga, fervent soutien du démocrate. Lady Gaga a déjà chanté une fois The Star Spangled Banner, elle a même été encensée après sa prestation, c'était en 2016 en ouverture du Super Bowl, la finale du championnat de football américain. Il faut l'imaginer, simplement accompagnée par un piano, au milieu de la pelouse dans un stade gigantesque, c'était à Santa Clara en Californie devant 120 millions de téléspectateurs. C'est notre pépite du jour, Lady Gaga interprète l'hymne américain. Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. n'est pas qu'une chanteuse pop, c'est avant tout une vraie interprète. Lady Gaga et The Star Spangled Banner, hymne officiel des États-Unis depuis 90 ans. Le texte a été écrit avant, en 1814, par un avocat américain au cours de la guerre anglo-américaine. Et cet avocat a posé son texte sur une musique qui existait déjà. Le comble, c'est que cette musique n'est pas américaine. On la doit à un Anglais qu'il avait composé pour son club de musiciens. C'était la musique de leur chanson à boire.
En plus de nos émotions, on découvre et on apprend beaucoup de choses tous les jours dans cette chronique. Merci beaucoup, Anthony Martin. Toute la journée, RTL vibre donc aujourd'hui avec l'Amérique. Investiture à 18h, je vous rappelle, à suivre notamment avec Thomas Soto. Puis notre quart d'heure américain dès 8h15 dans notre matinale. Nos rendez-vous avec le rire et la bonne humeur, c'est chaque jour de 15h30 à 18h, avec Laurent Ruquier, ses grosses têtes et leur drôlissime fake news.
Jean-Marie Le Pen, 92 ans, s'est marié religieusement hier avec Jeannie, 88 ans. Pfizer a fourni les vaccins et la nuit de noces.
Titoff.
Oui. Édouard Balladur, 91 ans, passe aujourd'hui devant la Cour de justice de la République. 25 ans après, je vous demande de vous arrêter. Il a déclaré au tribunal « Je vous demande de ne pas m'arrêter ».
Valérie Trierweiler.
Le ministère de la Santé va publier un tuto aujourd'hui afin que les Français apprennent à fabriquer leurs vaccins eux-mêmes. Seul moyen de vraiment faire décoller la campagne de vaccination comme on l'avait fait pour les masques.
Jean-Philippe Janssen pour terminer.
Oui, Jean Castex, Olivier Véran et Jean-François Delfraissy annoncent la réouverture d'un théâtre pour un soir seulement. Ils joueront ensemble les monologues du vaccin au profit des laboratoires Sanofi.
Et en attendant les monologues du vaccin dans le grand studio RTL cet après-midi, Valérie Mérez, Gérard Jugnot, Paul Elkarat, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari et Ariel Dombal, autour bien entendu de Laurent Ruquier. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Comment s'organise cette journée dans le ciel?
On va aller agiter, hein. J'ai sorti toute la panoplie, vous savez, ça arrive de temps en temps. Alors déjà, les nuages, regarde, il y en a quasiment partout. Il y aura quand même une meilleure luminosité dans le nord-est. Alors je dis luminosité, ça veut dire qu'on verra le ciel, hein, mais ce sera un petit peu plus lumineux de l'Alsace jusqu'à la région Rhône-Alpes. On peut même espérer un peu plus de soleil sur le nord des Alpes. Il y a tout pour eux. Bon, on ne peut pas skier, mais quand même, il y aura du soleil sur la Savoie et la Haute-Savoie. Dans toutes les autres régions, bah c'est simple, ça sera nuageux et pluvieux, notamment dans la moitié ouest, des pluies plus soutenues du côté de la Bretagne, sur l'Aquitaine également par moment. Puis près de la Méditerranée, là aussi, les pluies vont s'intensifier des Cévennes jusqu'à la Côte d'Azur. Il n'y a qu'en Corse où on conservera un temps un peu plus sec et un peu plus ensoleillé. J'ajoute un ingrédient, le vent aujourd'hui, qui va souffler fort. 97 km/h là du côté d'Ouessant en ce moment, 70 à 80 km/h tout au long de la journée, y compris dans les terres, dans la moitié ouest, beaucoup de vent dans le sud, 120 km/h sur les Pyrénées, 100 km/h dans la vallée du Rhône, notamment du côté du Lyonnais, c'est du vent de sud, hein. C'est pas du Mistral, et puis le tout avec des températures, là en revanche, qui remontent. J'ai trouvé quelques belles gelées ce matin, moins 12 à Chamonix, moins 5 à Annecy, moins 1 à Belfort, ou encore à Montauban, mais cet après-midi, 7 à 9 degrés en Alsace et ailleurs. On dépassera les 10 degrés, 11 à 14 degrés dans la plupart des régions, jusqu'à 15-16 degrés même près de la Méditerranée.
Tout cela est contrasté et nous allons continuer à le suivre grâce à vous Louis Baudin. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30 de Toute Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 20 janvier. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et donc une page se tourne aux États-Unis. À midi précise, 18h, heure de Paris, Joe Biden prêtera serment et deviendra le 46e président américain. La transition se déroule de manière inédite. Pour la première fois depuis plus de 150 ans, le président sortant n'assistera pas à la cérémonie. Donald Trump est en partance pour la Floride. Mais avant de partir, il vient de gracier 73 personnes, dont son ancien conseiller Steve Bannon. Et hier, il a posté une vidéo d'adieu.
I fought for you. I fought for your family. Above all, I fought for America.
Je me suis battu pour vous, pour vos familles. Il vante son bilan, Donald Trump. Il invite aussi les Américains à prier pour le succès de la nouvelle administration. C'est ce que fait Taylor. Il a voté Trump, mais il est prêt pour la présidence Biden.
Good luck to him. I hope everything goes smoothly.
Je lui souhaite bonne chance et j'espère que tout se passera en douceur, qu'on puisse retirer ses masques, avoir des vaccins et reprendre une vie normale. Je lui souhaite le meilleur et je pense qu'il peut réussir s'il écoute son cœur.
Taylor, avec Brice du Génie, des paroles d'apaisement, mais après les violences au Capitole il y a 2 semaines, les Américains savent que leur pays est déchiré et Nelson, électeur démocrate, n'est pas très optimiste.
Malheureusement, je pense que ça, c'est le début d'une menace d'extrême droite aux États-Unis. Je pense que c'est la première fois qu'ils ont vraiment réussi à faire trembler le pays. On a tous compris qu'ils sont là.
Nelson au micro de Lionel Gendron. Et face à la menace des débordements, Washington est bunkérisé. 25 000 militaires de la garde nationale sont mobilisés. Pas de public pour la cérémonie d'investiture. Près de 200 000 drapeaux ont été plantés sur l'esplanade du Capitole pour symboliser le peuple américain. Notez qu'hier soir, à son arrivée à Washington, Joe Biden a rendu un hommage solennel aux 400 000 morts du Covid aux États-Unis. Pour guérir, nous devons nous souvenir. C'est ce qu'il a dit.
En France, on se pose des questions car 5 personnes sont décédées après avoir été vaccinées.
5 personnes âgées de plus de 75 ans, qui vivaient en EHPAD et qui souffraient de plusieurs pathologies. L'Agence de sécurité du médicament a ouvert une enquête, mais Bernard Bégaud se veut rassurant. Il est professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux et spécialiste des vaccins.
5 cas retenus d'associations possibles entre le vaccin et un décès. Si on est froidement sur les chiffres, c'est peu. C'est peu parce que d'abord, un, il y a beaucoup de vaccinés. Deux, on est dans essentiellement une population qui est très âgée, avec des facteurs de risque, dont le taux de mortalité est très élevé. Plus on va vacciner, plus on va observer de cas de décès, mais dont 99% probablement n'ont rien à voir avec le vaccin. Malheureusement, il serait mort de toute façon.
Un propos recueilli par Agathe Landé. Hier, la France a passé le cap des 500 000 vaccinations. Pour la première fois, on a vacciné plus de 100 000 personnes en une journée. La pandémie a bousculé le calendrier, mais ça y est, c'est le début des soldes d'hiver aujourd'hui. Les commerçants espèrent sauver leur saison. Il avait toujours nié. Jean-Marc Reiser a finalement avoué hier le meurtre de Sophie Le Tan, une jeune étudiante de 20 ans disparue en septembre 2018 alors qu'elle visitait un appartement près de Strasbourg. Reiser évoque une dispute qui aurait mal tourné. Des aveux tardifs qui laissent perplexe le cousin de Sophie, Laurent Le Tan.
Tout d'un coup, des aveux de la part de M. Reiser a prétendu nier pendant ces années. On ne s'y attendait pas du tout. C'est dur parce que la vérité fait mal. Ça fait remonter également beaucoup de choses et la souffrance. On se pose également beaucoup de questions sur comment ça s'est passé. Connaissant M. Reiser, saura-t-on la vérité un jour? Je ne sais pas.
Laurent Le Tan avec Yannick Collant.
RTL 7h34, c'est l'un des cyclistes chouchous des Français. Thibaut Pinot ne sera pas sur le Tour de France cette année.
Le coureur Groupama FDJ a décidé de privilégier le Giro en Italie. Une décision qui n'a pas manqué de susciter des critiques, mais son manager Marc Madio monte au créneau pour le défendre. On les écoute tous les deux.
Le Tour de France, quand on est au top à 100%, c'est la plus belle course du monde. C'est le rêve de tout coureur cycliste, de tout le monde. Mais quand c'est la galère, comme moi j'ai pu le vivre cette année, c'est le pire endroit où on a envie d'être pour les coureurs cyclistes, je pense.
On dit Thibaut Pinot, il a toujours quelque chose. Thibaut Pinot, il n'a pas de mental. Quand vous avez la chance de le côtoyer au quotidien, Pinot, c'est tout sauf ce qu'on dit sur lui. Il y a un mec qui sait se faire mal à la gueule, c'est lui. Il donne, et il donnera. Alors je ne sais pas si on gagnera le Tour d'Italie un jour, je ne sais pas si on gagnera le Tour de France un jour. Mais en tous les cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il essaiera de le faire, il sait se faire mal, il s'entraîne. Donc tout ça, ça mérite le respect.
Marc Madio et Thibaut Pinot au micro RTL de Nicolas Georgerou. Le foot, les amateurs vont enfin pouvoir rejoindre la Coupe de France. Les clubs étaient à l'arrêt depuis fin octobre à cause de la pandémie. Sur le terrain, Auxerre l'a emporté hier sur 3 et recevra Marseille en 32e de finale. Ajaccio a éliminé Châteauroux et jouera à Lyon.
C'était donc le Tout Info avec Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
On va parler du Vendée Globe version coquine, mais comment font les marins 3 mois sans femme ou sans homme? Réponse tout à l'heure.
Je ne veux pas savoir. Merci beaucoup Isabelle Choquet. À tout à l'heure. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h35. Vous êtes bien chaussé ce matin, cher François.
Oui, je m'intéresse. Dans quelques instants, la saga d'une marque de sandales, les fameuses Birkenstock.
Oui.
Voilà. Et c'est pas seulement les touristes allemands qui en mettent. Vous allez le voir, 24 millions de paires par an. Je vous raconte ça dans un instant.
Et c'est un phénomène là. À tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h36 et même bientôt 37. L'Angleco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
La célèbre marque de sandales Birkenstock s'apprête à être vendue pour un prix, mais alors faramineux.
Oui, il y a 8 jours, je vous parlais de Dr. Martens. Oui. Doc Martens qui va entrer en bourse. Et bien voici que Birkenstock s'apprête à quitter le giron familial, celui de la famille du même nom, en Allemagne, pour quelques 4 milliards d'euros, selon l'agence Bloomberg. 24 millions de paires de sandales vendues par an dans le monde entier. Des chaussures très moches et très confortables. Vendues entre 70 et 100 euros avec la célèbre semelle en liège qui épouse la forme du pied comme un matelas à mémoire de forme. Mm-hmm. L'entreprise date de 1774. Non. Ça veut dire que Voltaire aurait quasiment pu mettre des Birkenstock quand il était hébergé par Frédéric II près de Berlin. En fait, l'essor de l'entreprise date d'un siècle plus tard. Comme Doc Martens, allemand lui aussi, Birkenstock fait des chaussures orthopédiques au départ. Oui. Ça se voit, hein. Et des chaussures de travail. Elles sont d'ailleurs toujours portées dans bon nombre d'hôpitaux allemands par le personnel, mais aussi par des stars, parce que le moche et confortable est devenu à la mode.
C'est ça, le Made in Germany, moche et confortable?
Oui, l'usine principale se trouve en Allemagne, à la frontière polonaise. Bon, il faut dire qu'il y a quand même eu un travail de marketing et de rénovation important hein, sur ces chaussures. Il y a près de 4000 employés chez le chausseur, qui a considérablement élargi sa gamme.
Ah oui.
Le liège a été remplacé par une matière synthétique parce que ça sent quand il pleut. Et l'entreprise consomme quelques 500 000 peaux de vache par an. Et ça fait l'équivalent de 300 terrains de football. Mais elle a bien sûr aussi développé les chaussures véganes. Le plus singulier, c'est que Birkenstock a vu ses ventes progresser fortement en 2020 grâce au confinement. Parce que c'est la chaussure de travail idéale pour le télétravail. Et même pour les réunions en Zoom, parce que personne ne voit vos pieds.
Mais qu'est-ce qui pousse les propriétaires à vendre pour le coup alors?
Bon, la valeur de l'entreprise, on l'imagine, et puis sa rentabilité actuelle, 720 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 100 millions de bénéfices. C'est un ratio qui n'est pas très loin de certaines entreprises du luxe. Mm-hmm. Ce sont des fonds d'investissement qui sont candidats au rachat. Des fonds d'investissement sont des sociétés financières qui ont une solide expérience pour développer les entreprises. Elles les gardent 5, 7 ou 10 ans et puis elles les revendent ensuite avec plus-value. Ils doivent estimer que Birkenstock a encore du potentiel de croissance et puis qu'un jour ou l'autre, ils pourront suivre les pas de Doc Martens, c'est-à-dire mettre en bourse l'entreprise en profitant de sa notoriété. En attendant, Birkenstock s'est diversifié dans un secteur inattendu pour un fabricant de sandales, les cosmétiques.
Non.
Oui, fabriqués à partir de la matière qui a rendu mythique le nom de la famille, le liège.
Eh bien, vous aurez d'autres sagas à nous raconter, à n'en pas douter, dans
bon
les jours, dans les semaines à venir. Bon pied, bon oeil. Merci infiniment, François Langlais. Et rendez-vous sur RTL pour un numéro inédit dans l'Angle Éco hors série. Il est très exactement 7h40. Bonjour, Alba Ventura.
Bonjour, Yves. Bonjour à tous.
Votre invitée ce matin?
Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État et la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Vous savez, c'est le début de l'opération Piège Jaune. Et puis, nous parlerons aussi inceste et Covid.
Rendez-vous dans un instant avec Brigitte Macron.
RTL Matin avec Yves Calvi.
RTL 7h41, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Brigitte Macron, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France.
Bonjour Brigitte Macron.
Bonjour Alba Ventura.
Et merci d'être avec nous sur RTL. C'est le début de l'opération Piège Jaune qui va permettre de financer plusieurs projets à l'hôpital ou à côté de l'hôpital pour les enfants, les ados, leurs familles. La grande différence, Brigitte Macron, cette année, c'est que compte tenu de la crise sanitaire, il n'y a plus de tire-lire. Elles sont évaporées.
Bien sûr, cette année, crise sanitaire oblige. C'est une dématérialisation des pièces jaunes. Donc, on passe par le SMS 92-11, dont, ou alors pièces-jaunes.fr, ou alors le QR code, ou alors, bien évidemment, l'échec. C'est une autre aventure qui commence, l'histoire de cette petite pièce qui fait les grandes rivières qui rejoignent les fleuves.
Alors, je me dis, il n'y aura plus ces petites boîtes jaunes qu'on avait l'habitude de voir chez nos commerçants. Qu'est-ce que je fais de mes petites pièces, de ma ferraille, comme on dit un peu grossièrement?
Alors, vous les conservez précieusement, ou vous pouvez aller chez les boulangers partenaires, ou alors dans Carrefour, où il y a ce qu'on appelle des bords qui prennent les pièces. Sinon, elles vont revenir. Donc, vous attendez.
Donc, on les garde précieusement.
Voilà.
Et elles seront utilisées. Ces dons, ils vont permettre de mettre en place des maisons des familles, notamment, parce que lorsqu'un enfant est à l'hôpital loin de chez lui, il est important que sa famille lui rende visite. Je sais que vous êtes allé lundi avec Didier Deschamps visiter l'une de ces maisons, c'est près de Rambouillet dans les Yvelines. Qu'est-ce que vous y avez vu, Brigitte Macron?
Pour un enfant qui est hospitalisé, avoir ses parents, c'est essentiel. Essentiel affectivement. Et les médecins me disent, mais ça fait totalement partie du soin, madame. C'est tellement important pour qu'un enfant supporte bien son hospitalisation, il a besoin de sa famille. On va également faire des maisons des adolescents, non pas à l'hôpital, mais adossées à l'hôpital. Vous savez à quel point c'est compliqué d'être adolescent, comment ça l'est peut-être encore plus davantage. Beaucoup de pédopsychiatres nous alertent en disant qu'il faut qu'ils aient un lieu pour parler de leurs problèmes, pour se rencontrer. Donc on voudrait développer encore plus de maisons des adolescents. Et cette année aussi, ce grand projet qui nous tient particulièrement à cœur, on va soutenir des projets d'envergure pour le dépistage de toutes les maltraitances et de toutes les violences. Et ce dépistage va être fait à l'hôpital.
Alors, c'est là, où je, voilà, c'est là où je voulais en venir parce que c'est même un phénomène qui s'est accentué avec la crise. J'ai vu que plusieurs études de chercheurs, notamment du CHU de Dijon, de l'INSERM Paris-Saclay, ont montré que les hospitalisations pour violences physiques des enfants de moins de 5 ans ont connu une hausse de 50% entre mars et avril. Les médecins vous ont dit à l'hôpital, on est dans un moment d'urgence absolue.
Énormément d'enfants passent à l'hôpital. Il faut à un moment donné qu'on puisse les repérer. Beaucoup de spécialistes nous alertent. Parce que quand il y a des conditions de logement qui sont extrêmement difficiles, un enfant turbulent peut générer de la violence chez ceux qui sont autour de lui. Un bébé qui pleure beaucoup, énormément. J'ai été alertée par des hôpitaux pédiatriques en me disant les problèmes des bébés secoués, des tas de violences qui sont inouïes et qu'on ne peut pas subodorer. Donc il faut bien évidemment aller au secours des enfants. Et il faut peut-être aussi développer, ce sera peut-être un autre temps, des maisons de la parentalité. Parce que être parent, ça s'apprend.
Vous en avez visité déjà des maisons de la parentalité? Ça existe?
Alors, il y en a une à Bordeaux que je vais aller voir au mois de janvier. Parce que actuellement, beaucoup de parents sont aussi très déconcertés. Il ne faut pas systématiquement dire que ce sont de mauvais parents. Il faut voir ce qui se passe, il faut écouter, il faut comprendre. Et être parent, ça s'apprend. Les gens, actuellement, n'ont jamais peut-être eu autant besoin d'être entendus. Moi, c'est ce que je ressens.
En ce moment?
Oui,
pourquoi?
Je le ressens. Parce qu'ils sont privés de social. Et nous ne sommes pas faits pour être privés de social. Et là, ils le sont. Et c'est extrêmement difficile. Ils ne se rendent peut-être même pas compte eux-mêmes à quel point c'est difficile.
Vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences psychologiques fortes?
J'en ai peur, bien sûr.
À cause du confinement, bien sûr.
J'en ai peur. D'ailleurs, tous les établissements de santé mentale que nous avons aidés lors du premier confinement m'ont tous alerté. M'ont dit, madame, on a peur que ça explose. Parce qu'ils ont des demandes accrues, tous âges confondus, toute classe confondue, ça concerne absolument tout le monde. Ce que l'on vit actuellement, c'était quelque chose que nous n'avons même pas pensé, qui est arrivé, qu'on a vu un peu loin en Asie et qui est arrivé en Europe et qui a explosé. C'est quelque chose qu'on n'a pas anticipé. Ma grand-mère me parlait de la grippe espagnole, mais j'avais l'impression que c'était dans une autre vie. Elle me racontait que toutes les maisons d'Amiens avaient été touchées, mais on se disait ça n'arrivera plus. Et ça arrive, et c'est ici, et c'est dans le monde entier.
Vous avez des signaux d'alerte, Brigitte Macron ?
Sur les jeunes.
Sur les jeunes ?
Sur les jeunes. Beaucoup, beaucoup, par exemple, les jeunes étudiants, sur l'urgence pour eux de retourner en cours, d'avoir des contacts avec leurs profs, de retrouver. C'est peut-être l'âge où on a le plus besoin d'être ensemble. Et c'est un âge aussi où votre avenir se structure parfois à partir des choix que vous faites. Or, les choix, parfois ils les font seuls, parfois ils ont besoin d'être accompagnés, parfois ils ont besoin qu'on confronte leurs opinions à celles des adultes. Mais c'est sur la table. C'est sur la table. Et je pense qu'il va y avoir une certaine reprise des cours assez rapidement dans des conditions sanitaires possibles. C'est ce que j'ai entendu.
C'est-à-dire que le président s'en occupe ?
Oui.
Avec
le président est excessivement sensibilisé à cela.
Et qu'est-ce qui est sur la table précisément ?
Le fait que les étudiants sont isolés, sont en manque de moyens. Il y en a beaucoup qui avaient des petits jobs d'étudiants. Mmh. Là, il n'y a plus de petits jobs d'étudiants. Donc, comment font-ils ? Il y a une extrême précarité. Il y en a qui arrêtent leurs études. Il y en a qui retournent chez les parents totalement désabusés. Il y en a qui passent leur temps sur des écrans. Il y en a qui ont pris une orientation. Ils reviennent sur cette orientation. C'est extrêmement difficile et ça se dit peut-être pas, mais déboussolant pour eux.
On parlait, Brigitte Macron, de la maltraitance des enfants, des violences. Et parmi ces violences, il y a l'inceste. Vous avez été surprise ce week-end sur les réseaux sociaux de voir ce mouvement hashtag MeTooInceste, tous ces gens qui brisent le secret « j'avais 5 ans, j'avais 8 ans », etc.
Tout ce qui explose est forcément violent et heureusement que ça explose, je vais dire. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant, un adolescent qui subit cela va se taire quasiment plus qu'un autre. Parce que quelque chose se met dans sa tête en place qui fait qu'il pense qu'il va être coupable de l'explosion de sa famille.
Oui.
Et donc jamais d'abord il se sent coupable de ça. Il y a chez les victimes un sentiment terrible de culpabilité qui fait qu'ils se taisent.
Comment on brise ce tabou de l'inceste ?
Tout d'abord, le dire. Il faut que ce soit l'école, forcément. Moi, j'ai vu, dans deux pays où je suis allée, au Danemark, par exemple, il y a une mallette pédagogique qui est distribuée aux professeurs. Pour les plus petits, hein, aux primaires, que dire aux enfants à un certain âge. Je l'avais vu également au Canada, sur les sujets violences sexuelles faites aux adolescents ou harcèlement fait aux adolescents. Il y a certains pays qui se sont inspirés de ça. Je pense qu'il faut mettre autour d'une table les professeurs, les pédopsychiatres, les directeurs, les parents d'élèves. Il ne s'agit pas de traumatiser les enfants, mais il y a bien un moment où il va falloir dire aux enfants qu'est-ce qu'on doit leur dire et comment leur dire, à quel âge. Mais je pense que tous les enfants doivent entendre quel est leur droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de leur faire.
Oui, vous avez eu cette discussion avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Oui.
Il va s'en saisir ?
Oui. Et là, bien évidemment, il va s'en saisir. Je suis, vous savez très bien, comme il me l'a demandé avec lui, contre le harcèlement fait à l'école. Et à chaque sortie que nous faisons tous les deux, on est absolument terrifiés. Au sujet du harcèlement, pardon, Alba, je fais une petite parenthèse. Le harcèlement par Internet, c'est terrible. À la fin du congrès de l'UNESCO contre le harcèlement, j'ai lu une lettre d'une adolescente expliquant pourquoi elle voulait mourir. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de mes mots. L'important, c'est ce qu'elle a dit. Et
harcelée par qui ?
Par les élèves de sa classe. Qui ne sont pas des harceleurs fondamentaux, mais qui deviennent harceleurs en meute. Et tout d'un coup, c'est toute la journée, et vous rentrez, ça continue. Et ça s'était intensifié pendant le confinement.
Pour revenir un instant
Adam Mosley, pardon, le patron d'Instagram, m'a contacté suite à la lettre que j'ai lue. Et il a dit qu'Instagram voulait
lutter,
identifier, enlever les contenus. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais c'est lui qui a demandé à me parler en visio.
Pour revenir un instant sur l'inceste, vous avez lu le livre de Camille Kouchner qui accuse son beau-père Olivier Duhamel ?
Alors, j'ai lu des extraits, donc je considère que je ne l'ai pas lu parce qu'il faut lire in extenso. J'ai lu des extraits et je l'ai écouté parce qu'elle est passée à la grande librairie. Donc je l'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de respect. Parce que c'est très difficile de parler. Elle le fait, et je vais m'emparer du livre.
Brigitte Macron, quel genre de présidente êtes-vous ? Je parle de présidente de la Fondation.
Vous m'inquiétez, bien sûr. Alba Ventura.
Non, mais vous aviez imaginé ce rôle-là qui est quand même assez bien rempli ?
Non, j'imaginais pas du tout quand Bernadette Chirac a demandé que je prenne la suite. D'ailleurs, je veux la remercier. Il lui dire à quel point sa Fondation est solide. Et je ferai tout pour qu'elle le reste. Quand elle m'a demandé, j'imaginais pas du tout. Je ne pensais pas que je tomberais dans la marmite. Mais bien évidemment, quand on va beaucoup à l'hôpital et qu'on voit ce que font les soignants, qu'on voit les besoins qu'ont les patients, on ne peut que les aider. D'ailleurs, en mars-avril, lors de la première vague, j'ai eu beaucoup de gens qui me donnaient que pour les soignants. Donc là, je suis en train de faire un espace soignant témoin et pour leur aménager des espaces soignants.
On comprend qu'il y a une générosité envers...
Il y a une très grande générosité.
Comment allez-vous après avoir été malade du Covid ? Est-ce que vous êtes bien remise ?
Bien, je vous remercie beaucoup. On est en post-Covid et j'attends 3 mois pour faire une prise de sang pour me faire vacciner. Parce que je n'ai pas envie de le revoir.
Oui. Vous êtes restée à l'isolement avec le président ?
Oui, à Brégançon.
Vous avez eu peur ?
Il y a un moment où on respire moins bien. Mmh. Donc c'est-à-dire on n'est pas tranquille.
Et c'est pas tous peur, les deux ensemble, vous étiez un peu angoissée ?
Non, parce qu'on n'avait pas la même forme. En dehors du fait qu'on avait le seul point commun, c'est ni goût ni odorat. Le reste, on avait deux formes un petit peu différentes.
Brigitte Macron, on vit quand même un moment inouï. Oui. Et depuis le début, évidemment, de cette crise, il y a eu des contradictions, il y a eu des lenteurs. Vous comprenez, vous, que les gens râlent ?
Bien sûr, parce que c'est difficile. Le quotidien des gens est extrêmement difficile.
Notre côté gaulois réfractaire.
C'est-à-dire que là, je les comprends, parce que ce qu'on vit est tellement... On vit d'un moment inouï, comme vous l'avez dit. On a des informations qui peuvent être paradoxales, parce que tout ce qui arrive est parfois paradoxal. Parfois, on a une certitude, cette certitude est balayée par une autre, quelque chose qui arrive. Donc... les scientifiques ne sont pas d'accord sur tout, et c'est tout à fait normal, ça a toujours été comme ça. Il y a quand même une chose qui me sidère, c'est la rapidité avec laquelle ils se sont adaptés. la rapidité. Moi, je vois, regardez ce qui s'est passé dans les services de réa en mars-avril, ce qui se passe maintenant. Regardez aussi les médecins qui traitent. Moi, je trouve qu'on a très, très vite appris et très, très vite progressé. C'est mon côté un petit peu... J'essaie toujours d'être positif parce que c'est totalement inédit aussi. La rapidité avec laquelle il y a eu des vaccins.
Et d'ailleurs, de plus en plus de Français sont favorables aux vaccins.
J'ai l'impression qu'il y a plus de gens favorables aux vaccins que de gens réfractaires. Oui.
Est-ce que depuis que le président était malade, il a changé quelque chose dans son comportement ?
Non.
Non.
Il n'a jamais cessé. Il ne s'est pas beaucoup reposé. Et dès le 31, il était là.
Brigitte Macron, l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, disait dimanche au grand jury RTL qu'il fallait s'attendre à une progression de l'épidémie en mars-avril. Vous imaginez un nouveau confinement ?
Clairement, je ne l'espère pas. Mais je pense que plus les gens vont se faire vacciner en mars-avril, on va ressortir un peu. Donc ça risque d'être moins compliqué. Mais que de plus en plus de gens vont l'avoir, ça je le pense, parce que c'est très contagieux, hein, très contagieux.
Vous aimeriez faire passer un message aux restaurateurs, aux patrons de musées, aux patrons de théâtre, de salles de cinéma, de spectacles qui souffrent particulièrement, j'en oublie certainement beaucoup d'autres, en ce moment ?
Leur dire que dès que c'est ouvert, on se précipite. On n'a qu'une hâte, c'est d'y retourner, de les voir. Et je mesure à quel point, pour eux, c'est difficile. Comment les restaurateurs, certains, font du à emporter, etc. C'était un crève-cœur pour beaucoup de se séparer de leur personnel, même s'il y a du chômage partiel. Les comédiens, ils sont en train de répéter. C'est dur de répéter quand vous ne savez pas quand ici vous allez jouer. Puis c'est quelque chose, on n'imaginait pas qu'on allait se poser le problème. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais intégré.
C'est vrai.
C'est banal d'aller prendre un pot, ça peut l'être. Et là, non. Donc comment la complexité est arrivée dans nos vies, là où on ne l'attendait pas du tout.
Cette crise sanitaire, elle a engendré une crise économique, une crise sociale. On avait déjà une crise identitaire terroriste. Toutes ces crises qui reposent sur les épaules de votre époux, comment il vit cela ?
Extrêmement concentré. En permanence. Extrêmement aussi à l'affût de tout le monde. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui essaient d'aider autant les gens. Mais c'est ce qu'il essaie. Financièrement, c'est d'accompagner. Simplement ça. Parce que c'est ce que me dit, c'est ce qu'on me dit tous mes amis qui sont à l'étranger. Mais on sait aussi comment toujours, les Français ont su rebondir. Ils ont connu des périodes de leur histoire qui sont noires. Et toujours, ils sont repartis. Il y a en nous une énergie, une culture qu'on n'imagine peut-être même pas. Je pense qu'on est beaucoup plus fort qu'on en croit et que ça va se voir dès que ça va repartir. Je pense fondamentalement que ça sera comme ça.
Dans quelques heures, le nouveau président américain Joe Biden entrera à la Maison Blanche avec son épouse Jill. Vous les connaissez tous les deux ?
Non, pas encore. Je sais que les deux présidents se sont parlé, ont envisagé une rencontre avec les épouses. Nous sommes enseignantes toutes les deux.
Et oui, elle est prof d'anglais.
Voilà.
Elle entend poursuivre son activité professionnelle.
Elle est très investie. Donc, d'après tout ce que j'ai lu d'elle, et je pense que dès que ce sera possible, les présidents vont se rencontrer. Je souhaite que tout se passe bien pour les États-Unis qui sont chers à mon cœur, parce que c'est le pays où je suis allée le plus quand j'étais ado. Donc, j'étais même là quand Armstrong a mis le pas sur la Lune. J'ai vécu ça avec les Américains. Et j'ai des souvenirs, et les souvenirs d'adolescence sont des souvenirs qui restent dans nos cœurs. Bonne chance aux États-Unis.
Merci infiniment, Brigitte Macron, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ce moment sur RTL.
Merci, Alba Ventura.
Brigitte Macron qui annonce que les pièces jaunes vont désormais donc soutenir la lutte contre les violences faites aux enfants au sein de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, et qui souhaite bonne chance aux États-Unis, vous l'avez entendu, en ce jour bien particulier aux États-Unis dont nous allons vous parler dans quelques instants dans nos différentes éditions. On va retrouver notre point météo avec Louis Baudin dans quelques secondes.
RTL Matin.
Louis Baudin, une météo venteuse aujourd'hui.
Exactement, hein, du vent sur toute la moitié ouest. On a eu 100 km/h ce matin ou pas loin du côté de Ouessant. Mais dans toute la moitié ouest, ça va souffler toute la journée, 70-80 km/h sur les côtes, mais également dans les terres. Dans le sud, là aussi, beaucoup de vent, 120 km/h sur les Pyrénées, 100 km/h dans la vallée du Rhône. Ça remontera jusque sur la région lyonnaise, tout ça avec beaucoup de nuages. Et puis des précipitations, alors principalement dans l'ouest de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, et puis dans le sud également, du golfe du Lion jusqu'à la côte d'Azur. Un peu plus de soleil sur la Corse ou encore sur les Alpes du Nord, et puis un peu moins de pluie quand même de l'île de France au nord-est.
Merci d'écouter RTL, il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, les dernières heures à la Maison Blanche pour Donald Trump.
Nous serons à Washington dès le début de ce journal. Confinement et inquiétude sur l'avenir. Les Français n'ont jamais autant épargné depuis 10 ans. Et puis l'avenir justement, lequel choisir alors que tout semble incertain. Les lycéens ont rendez-vous aujourd'hui sur Parcoursup.
RTL Matin.
Il est 2h du matin à Washington et Donald Trump, visiblement, ne dort pas puisqu'il vient de signer plusieurs dizaines de grâces, comme il en a le droit, pour son ancien conseiller, notamment Steve Bannon, accusé de détournement de fonds. Dans quel état d'esprit est-il en ce moment, Donald Trump, alors que se tourne la page de ses 4 années tumultueuses à la Maison-Blanche, alors que Sleepy Joe l'endormi, qu'il a raillé à longueur de meeting, s'apprête à prendre sa place tout à l'heure? Il sera 18h, heure de Paris, le 46e président des États-Unis sera officiellement intronisé sur les marches du Capitole, brise du génie.
Oui, c'est de la terrasse du Capitole, prise d'assaut par les manifestants il y a 2 semaines, que les présidents fraîchement investis prononcent leurs premiers mots, un discours qui donne le ton du mandat. En 1961, John Fitzgerald Kennedy invite les jeunes citoyens à s'investir pour leur pays. 32 ans plus tard, en 1993, Bill Clinton scande la vie, la liberté et la poursuite du bonheur.
Life, liberty, the pursuit of happiness.
Puis la déclaration des droits de l'homme résonne dans les mots de Barack Obama. Les hommes sont égaux, les hommes sont libres. On est en 2009. Dans cet exercice du premier discours présidentiel, Donald Trump détonne il y a 4 ans. Il décrit une Amérique anxiogène, rongée par le crime, la drogue et les gangs.
And the crime, and the gangs, and the drugs.
Tout à l'heure, dans le contexte sanitaire et sécuritaire, Joe Biden est attendu sur le rassemblement et l'unité.
Brice du génie, envoyé spécial de RTL à Washington, Donald Trump, qui souhaite dans un message vidéo de la chance à l'administration qui lui succédera. Il ne cite pas le nom de Joe Biden. Trump, dont le bilan a été partiellement salué hier soir par le futur ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, notamment sur la Chine.
President Trump was right in taking a tougher approach to China.
Donald Trump a eu raison d'avoir une position plus ferme face à la Chine. Je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire, mais le principe de base était bon et ça a été utile.
Anthony Blinken, le futur secrétaire d'État, qui affirme également que les États-Unis ne reviendront pas sur la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, un choix pourtant à l'époque très controversé. Il y en a un, en revanche, qui ne regrettera pas du tout Donald Trump, c'est Hassan Rouhani, le président iranien, qui se réjouit à l'instant du départ du tyran, je le cite.
Spécial quart d'heure américain dès la fin de ce journal avec nos envoyés spéciaux aux États-Unis et nos spécialistes en studio, dont Nicole Bacharan. RTL, il est 8h03. L'Organisation mondiale de la santé le confirme ce matin. Les nouveaux variants du coronavirus gagnent du terrain.
La souche britannique, désormais présente dans plus de 60 pays à travers le monde, dont la France, est 10 de plus que la semaine dernière. Le variant sud-africain lui progresse plus lentement. 23 pays désormais concernés. Nouveau conseil de défense sanitaire tout à l'heure à l'Élysée. Il devrait confirmer la prolongation de la fermeture des stations de ski. Pour l'heure, alors que beaucoup de nos voisins ont opté pour le confinement total, comme l'Allemagne, qui vient d'ailleurs d'en reporter l'issue au 14 février au mieux, le gouvernement français a choisi l'option d'un couvre-feu généralisé à 18h, mais plus facile à dire qu'à faire en réalité. Vous l'avez vérifié à Paris, porte de Saint-Cloud, Sébastien Rouxel. Le soir, ce n'est pas encore morne pleine.
Et non, pas de miracle. À 18h, le périphérique est loin d'être désert. Ces 8 voies sont même particulièrement bondées à cette heure-là.
Un enfer. J'ai mis un peu plus d'1h45 entre Créteil et là, actuellement. Là.
toutes les portes, c'est des bouchons. Limite, on passe la deuxième, quoi.
Ce soir, c'est chaud. Je viens des Lilas, je suis parti à 17h30. Ouais, c'était assez dur, là, 45 minutes. Il y a beaucoup de monde.
C'est une catastrophe. J'avais un rendez-vous chez le médecin et je me suis retrouvée dans la plus grosse des galères. Là, j'ai pris une heure. D'habitude, je prends 20 minutes, 25 minutes.
Des temps de parcours rallongés car il y a un pic de circulation lorsque débute le couvre-feu. C'est ce qu'a remarqué Mélanie ces derniers jours.
Depuis le couvre-feu, tous les soirs, c'est pareil. Tout le monde sort en même temps.
Vous avez l'habitude de rentrer à quelle heure ?
19h15, 19h20 quand je sors du travail. Là, 18h, c'est pas possible.
Dès 19h, en revanche, ça roule beaucoup mieux. Sabrina n'est pas censée être dehors, mais à cette heure-là, elle rentre bien plus vite de chez son copain.
Il n'y a plus de bouchons. On a mis à peu près 10-15 minutes. D'habitude, on met plus de 3 quarts d'heure sur le périph', quoi. Là, c'est mieux, du coup.
Et c'est d'ailleurs ce que l'on constate dans toute l'Île-de-France. Hier soir, la direction des routes franciliennes enregistrait 25 km de bouchons cumulés à 19h30 contre 200 en temps normal.
Sébastien Rouxel, dans ce contexte, le coup d'envoi des soldes d'hiver à partir d'aujourd'hui. Et si votre porte-monnaie tiens, fait la soupe à la grimace, vous pouvez toujours acheter et payer plus tard. En tout cas, chez certains commerçants qui ont opté pour le paiement différé grâce à une société qui leur avance l'argent. Écoutez les explications et ce reportage d'Arnaud Touche.
Dans ce magasin de vêtements, depuis quelques jours, une nouvelle solution est proposée en caisse, comme l'explique Virginie, la responsable du magasin Koukaï à Boulogne-Billancourt.
C'est un système où la cliente va payer 1 euro le premier jour et va pouvoir décaler son paiement entre 15 jours et 30 jours à son choix. Depuis jeudi dernier, on a plusieurs clientes qui en ont profité.
Et parmi les clientes, ce jour-là, ce paiement différé arrive à convaincre Eptissem, venu chercher quelques nouveautés.
En fonction de la paie, on a d'autres charges à payer, du coup ça sera nickel. Mais comme ça, je peux profiter d'acheter autre chose.
Mais pour Laure, une autre cliente, c'est une mauvaise idée.
Ça veut dire que les gens qui font ça n'ont pas les moyens sur le coup et que on part dans un engrenage où on ne fait que décaler les dépenses. C'est pas bon signe.
Pour l'enseigne, cette nouvelle solution de paiement permet de réaliser des ventes supplémentaires. Pour autant, la créatrice du service PayLater, Marine Esmain, se défend de vouloir proposer un crédit aux clients.
Nous, on n'a pas du tout vocation à pousser l'endettement des clients. Pourquoi ? Parce que c'est du paiement garanti, donc nous, on paye le marchand tout de suite. Et donc, on a un intérêt complètement aligné avec le consommateur pour qu'il paye à la fin, puisque c'est de l'argent qu'on aura déjà versé au marchand.
Et l'entreprise française vient désormais de déployer ce service dans plus d'une cinquantaine de boutiques en France et sur Internet.
Payer maintenant ou plus tard, grand débat dans le studio hein, pendant le sujet. Reportage d'Arnaud Touche. Jamais les Français n'avaient autant épargné depuis près de 10 ans. 35 milliards d'euros déposés l'an dernier sur les livrets A et livrets de développement durable. C'est ce que nous révélait ce matin sur RTL le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Éric Lombard.
Dans un instant, mystère, un choix dans le brouillard pour les futurs étudiants avec l'ouverture aujourd'hui de Parcoursup. Restez avec nous.
RTL Matin. RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Démoraliser les étudiants manifestent aujourd'hui un peu partout en France.
À l'appel notamment de l'UNEF à Paris, ils se dirigeront vers le ministère de l'Enseignement supérieur cet après-midi. Et c'est ce même jour, ce mercredi, que leurs cadets, les lycéens, doivent tenter de se projeter dans l'avenir. En commençant à s'inscrire, à inscrire leurs vœux d'orientation sur Parcoursup. Ils ont jusqu'au 11 mars pour le faire, mais pas facile d'imaginer l'après. Évidemment, dans ce contexte de pandémie et de cours à distance. Bonjour Marie Guerrier.
Bonjour.
Est-ce que la crise sanitaire peut modifier les choix d'orientation des lycéens ?
Oui, le contexte sanitaire est un frein, disent 69% des jeunes suivis par l'association Article 1, spécialisée dans l'égalité des chances. Ces lycéens voient les étudiants qui galèrent en ce moment. Ils ne savent pas eux-mêmes s'ils vont passer le bac dans des conditions normales. Ils n'arrivent pas donc à se projeter. En première, ils ont vécu le confinement. En terminale, ils alternent présentiel et distanciel. Certains pensent qu'ils n'auront pas le niveau pour la suite. Il y a la conjoncture économique, des familles en difficulté et des élèves qui se disent « je n'ai plus les moyens de faire des études ». Et puis, il faut ajouter la réforme du bac avec des lycéens qui se demandent s'ils ont choisi les bonnes spécialités pour postuler dans telle ou telle formation. Alors tout ça, ça fait beaucoup de jeunes qui doutent. Il faudra cette année lutter davantage encore contre l'autocensure et les choix par défaut, disent les spécialistes de l'orientation.
Comment les aider à faire des choix ? Parce qu'en ce moment, on sait qu'il n'y a pas de salon d'orientation, il n'y a pas de porte ouverte.
Ouais, impossible de les organiser en présentiel, alors tout se passe sur Internet. Visites virtuelles des écoles et des universités. L'ONICEP, l'organisme officiel d'information sur les métiers et les formations, a répertorié sur son site Internet les salons virtuels qui vont se tenir dans les semaines à venir avec des conférences à distance, des forums de discussion, des vidéos. Mais les profs restent les interlocuteurs privilégiés par les jeunes, même si c'est moins commode en ce moment dans les lycées où les élèves ne sont là bac la moitié du temps. Ils pourront aussi discuter avec des étudiants ambassadeurs. Sur la plateforme Parcoursup, chaque formation propose une mise en relation avec ses étudiants chargés de partager leurs expériences. Le numéro vert Parcoursup 0800 400 070 est activé dès aujourd'hui. Au bout du fil, les conseillers formés par l'ONICEPT, ils sont alertés sur le rôle tout particulier qu'ils vont devoir tenir cette année auprès des jeunes et de leurs familles.
Brigade signée Marie Guerrier. Si vous avez un dossier de crédit à la Banque Postale, vérifiez qu'il y est encore. Plus de 30 000 dossiers en cours ont été détruits par erreur par la société d'archivage qui s'est emmêlé les pinceaux dans les numéros. C'est une information du Canard Enchaîné.
Il est 8h11 en football. C'est un Olympique de Marseille en crise qui reçoit Lens ce soir au stade Vélodrome.
Le ton est encore monté ce week-end après la défaite des Marseillais face à la Lanterne Rouge. Nîmes, Marseille à 8 points de retard sur le podium. Une seule victoire lors des 6 derniers matchs. Et une ambiance désormais à couper au couteau, Étienne Baudu.
Oui, la défaite samedi soir face à Nîmes, bon dernier de Ligue 1, fait vraiment tâche. Et les joueurs en ont pris pour leur grade. D'abord André Villas-Boas, l'entraîneur s'est dit à l'issue de la rencontre très déçu par leur comportement, qu'il n'y avait pas eu un bon état d'esprit. Le lendemain, c'est Jacques-Henri Hérault, le président qui est descendu dans le vestiaire, lui qui est depuis des mois la cible de supporters qui demandent sa démission, est venu passer un savon aux joueurs, des pourris gâtés, selon des témoins de la scène. Il aurait même menacé les joueurs en fin de contrat. Ils ont désormais 48 heures pour dire s'ils comptent rester professionnels jusqu'au bout. Sinon, ils ont 13 jours pour trouver un club. Une intervention musclée saluée en tout cas par l'entraîneur.
Il a pris la parole, il a dit ce qu'il avait dit de la part du club, ça c'est important. Dans tout cela, il y a un mec de groupe, il est important que le président se montre présent et il l'a fait hier.
Alors parmi les joueurs visés, Florian Thauvin en fin de contrat et qui a manqué un pénalty samedi dernier. Dimitri Payet aussi aux stats désastreuses, 5 ou 6 sprints seulement face à Nîmes. Enfin, certains se demandent aussi où est le vrai boss, Franck McCourt, invisible depuis plusieurs mois.
Étienne Baudu à Marseille.
L'histoire du jour.
Vous avez eu votre code au bout de combien de temps?
Je crois que je l'ai eu dès la deuxième fois.
Et vous, Louis Baudin?
Première fois.
Première fois, bravo. Au Royaume-Uni, on a un champion toute catégorie, un candidat qui a fait preuve d'une rare opiniâtreté, puisqu'il a obtenu son code au bout de la 158e fois. Oui, il a 42 ans, alors bravo. Il a dû commencer très tôt. Il n'est pas au bout de ses peines, parce que voilà, il a le code, mais il va maintenant falloir passer le permis.
La conduite, hein,
peut-être à l'âge de 150 ans.
On est bien d'accord. C'était le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, Michel Simet nous dit tout sur le gel hydroalcoolique. Vous le savez, notre fidèle compagnon. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous attardez sur le gel hydroalcoolique. Tout le monde ne l'utilise pas comme il faut.
Oui, d'où un petit rappel qui me paraissait nécessaire. Alors, le gel hydroalcoolique, c'est incontestablement l'un des produits stars de l'année, sans doute l'année qui se profile aussi d'ailleurs, voire des années à venir. Après tout, si sa consommation généralise par la magie contrainte de la pandémie, ça fera de mal à personne, à part au virus et aux bactéries, ce qui arrangera tout le monde. Alors, une fois qu'on a dit ça, il n'est pas interdit de revenir sur le mode d'emploi de ce produit miracle, qui, s'il est mal utilisé, n'a plus rien de miraculeux.
Bon, c'est pas très compliqué, hein. On s'en verse dans la paume d'une main, et ensuite on fente les deux mains et on est propre, non?
Alors sur le papier, ce que vous dites est inattaquable. En pratique, je me permettrai de revenir sur quelques aspects de cet art si particulier de la désinfection au gel. Pour commencer, on va parler quantité, justement. Si vous disposez d'un flacon avec une pompe pré-dosée, vous laissez faire la technique. Si c'est pas le cas, vous ne vous contentez pas d'une noisette de gel, comme j'ai pu le voir. Soyez généreux, remplissez bien le creux de votre main. Le gel, il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Ensuite, on va parler gestuelle. Il faut étaler le gel. Ce n'est qu'après qu'on se frotte les mains paume contre paume, puis dos de la main contre dos de la main, et on n'oublie ni les espaces entre les doigts, qui sont de bons refuges pour les microbes, ni les poignets, ni le bout de chaque doigt, ni le pouce qui a bien y regardé, souvent le grand oublié de l'affaire. Total des totaux, montre en main, si le fait de vous frictionner avec du gel vous demande moins d'une trentaine de secondes, c'est que vous avez bâclé la cérémonie.
Ouh là là, tous les gels se valent-ils?
Non. Un impératif à ne pas perdre de vue, il faut que votre gel contienne au minimum 80% d'éthanol. En dessous de 80%, vous risquez d'acheter de la poudre de perlimpinpin. Et puis dans la série, mieux vaut le savoir avant que de le découvrir après, j'ai encore deux ou trois choses à vous dire.
Eh ben allons-y pour une salve de conseils pratiques.
Je ne mets pas de gel sur les mains humides. Je ne me frotte jamais les yeux juste après avoir mis du gel. Pas de gel hydroalcoolique non plus sur les plaies ouvertes, l'eczéma ou du côté des parties intimes. Sinon, vous vous exposez à des irritations. Enfin, pas de gel sur des mains grasses ou sales. Le gel, on ne le dira jamais assez, reste un produit d'appoint et rien ne remplace un bon lavage des mains et des poignets à l'eau claire avec du savon.
Rien ne remplace un bon lavage des mains. Merci beaucoup Michel, à demain. Nous vivons un jour particulier puisque ce soir à 18h, c'est enfin l'investiture du 46e président des États-Unis, en l'occurrence Joe Biden. Alors, quel bilan de la présidence Trump? Que peut-on espérer de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche? On en parle dans notre quart d'heure américain, c'est dans un petit instant.
Whose broad stripes and bright stars?
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin.
7h-9h30 avec Yves Calvi.
Il est 8h21, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. De Donald Trump à Joe Biden, nous allons vivre une journée bien particulière. Nous vous en parlons depuis ce matin et c'est maintenant notre quart d'heure américain. Je salue Nicole Bacharan qui est politologue et historienne, Jean-Mathieu Pernin et le chef de notre service étranger, Christophe Decroix. Mais avant de vous donner la parole, nous allons tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Washington, Brice Dugénie. Brice, il est, selon mes calculs, 2h20 du matin aux États-Unis. Quelle est
Absolument,
l'ambiance
voilà, calcul réussi.
Quelle est l'ambiance à l'orée de cette journée si particulière?
Ça y est, le Capitole, enfin tout le quartier du Capitole, vous savez, cette esplanade qu'on appelle le Mall est totalement fermée désormais. Et les kilomètres de barrières métalliques de plus de 2 mètres de haut qui entourent la zone, pareil, sont fermés hermétiquement, gardés par, vous savez, ces 25 000 militaires de la garde nationale. Il n'y a plus que les quelques personnes accréditées pour la cérémonie désormais qui pourront se déplacer librement dans la zone. Et hier, c'était assez étonnant parce que même pour entrer dans le cœur de la capitale, eh bien les véhicules de police et même certains véhicules militaires devaient passer à des fouilles par d'autres militaires, à des checkpoints qui ressemblaient vraiment à des entrées de base. Dans des pays, on est plus habitué à voir ça, par exemple dans des pays comme l'Irak, vraiment tout est très sécurisé. Chaque carrefour, chaque avenue, chaque trottoir a désormais un accès limité, puisque même sur les trottoirs, des blocs de béton ont été disposés pour canaliser les piétons, et ce sera le cas au moins jusqu'à la fin de cette journée de cérémonie d'investiture. À Washington, vraiment tous les habitants qu'on a pu croiser ces dernières heures nous disent que jamais ils n'ont vu une investiture aussi sécurisée.
Alors Jean-Mathieu Pernin, vous allez vous nous aider à y voir plus clair, bien entendu comme chaque jour, en termes de réalisation des promesses électorales. D'abord, Donald Trump a-t-il fait ce qu'il avait annoncé?
Eh bien oui, alors on va commencer avec une des promesses de campagne de Donald Trump les plus emblématiques. Investi le 20 janvier 2017, 45e président des USA, une semaine après, il signe une série de décrets, parmi elles cette mesure très symbolique.
Le secrétaire d'État à la sécurité intérieure et moi-même allons commencer la construction immédiatement d'un mur à la frontière. Une nation sans frontières n'est pas une nation.
Voilà, un mur entre les États-Unis et le Mexique pour arrêter l'immigration illégale. La promesse du candidat Trump est mise à exécution. Alors le mur devrait s'étendre sur 3144 kilomètres. Le coût de sa construction s'élèvera à 8 milliards. Et surtout, ça sera le Mexique qui financera sa construction. 4 ans plus tard, eh bien, comme tous les chantiers, c'est pas ce qu'on a prévu au départ, sur les 727 kilomètres de barrières supplémentaires que Donald Trump déclare avoir fait construire, seuls 76 kilomètres ont été érigés à des endroits où il n'existait auparavant aucun obstacle physique. En ce qui concerne le coût, il s'élève à ce jour à 15 milliards de dollars pour 40% de frontières sud sécurisées et le Mexique n'a, étonnamment, pas versé un pesos.
Les choses sont claires. Concernant la politique internationale, promesse tenue?
Alors nous sommes le 1er juin 2017 et Donald Trump réalise une promesse de campagne très emblématique.
Nous sortons, mais nous allons commencer à négocier et nous verrons si nous pouvons construire un accord équitable. Si c'est possible, c'est bien, sinon tant pis.
Les États-Unis sortent de l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump s'était engagé donc à sortir d'un accord signé en 2015 par Barack Obama et visant à limiter la hausse de température moyenne mondiale. Un accord injuste, disait Donald Trump. À l'époque, cela a été un coup de semonce puisque les États-Unis, deuxième émetteur de gaz à effet de serre mondial, donner un signal contraire au reste de l'humanité concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Une décision symbolique, mais qui n'a pas vraiment eu d'impact puisque, hors le symbole, la sortie de ce traité n'a été effective que le 4 novembre dernier, soit le lendemain du scrutin présidentiel. Joe Biden a promis de réintégrer l'accord de Paris pour le climat. Promesse électorale également au retrait de l'accord sur le nucléaire iranien acté le 8 mai 2018. Sortie des États-Unis de l'UNESCO, programme culturel des Nations Unies. Promesse tenue en octobre 2017, le retrait une forme de diplomatie.
Alors, il met lui-même souvent en avant son bilan économique.
Et oui, et comme son discours devant le Congrès en février 2020.
Dès ma prise de fonction, j'ai rapidement mis en œuvre des actions pour améliorer l'économie américaine.
diminuer les réglementations qui tuaient les emplois, diminuer les impôts, et je me suis battu pour des accords commerciaux justes et réciproques.
Voilà, en 2016, Donald Trump promettait 4% de croissance pour les États-Unis. En 2019, c'était plutôt 3,2%, ce qui est un bon résultat. Alors bien sûr, le Covid a un peu faussé tout ça, mais Trump a profité du plus long cycle de croissance depuis 10 ans outre-Atlantique. Quand il est arrivé à la Maison-Blanche, Trump a trouvé un taux de chômage de 4,7%. Il est descendu jusqu'à 3,5% à la fin 2019. Mais il y a une dette qui se creuse et une hausse des droits de douane qui fragilise les plus faibles. C'est donc à voir sur le long terme.
Jean-Mathieu Pernin, il est 8h25. Alors Nicole Bacharan, je m'adresse aussi bien à la politologue qu'à l'historienne. Son slogan était « Make America Great Again ». Quel bilan faites-vous de ces années, Trump ?
Je trouve que c'est exactement, pardon Yves, la question à poser. Parce que c'était ça le projet, « Make America Great Again ». Et quand on regarde l'Amérique d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut dire que ce pays est « great » ? C'est un pays qui nous fait peur, qui nous fait pitié, qui nous inquiète. Il n'y a rien de « great ». Je veux dire, la pandémie est la pire du monde. On a dépassé le seuil des 400 000 morts. La crise économique est très forte. Mais là, je rejoins ce que vous venez de dire. Trump n'en est pas le seul comptable, bien loin de là. Les États-Unis sont affaiblis dans le monde comme ils ne l'ont jamais été. Et surtout, c'est un pays divisé comme il ne l'a jamais été depuis la guerre de sécession.
Alors, au moment vous de voulez la dire guerre, qu'il a activé toutes les tensions de la société américaine au lieu de les apaiser ?
Il ne les a pas créées. Vous avez raison de demander s'il les a activées. Il ne les a pas créées, mais il les a amplifiées, il les a nourries. Il est dans un monde de réseaux sociaux, etc., qui amplifie aussi beaucoup les choses. Mais lui, il est un homme de ce monde-là. Et on a aujourd'hui des sondages qui correspondent à ce qu'on vit quand on est aux États-Unis. C'est-à-dire que plus de la moitié des Américains considèrent que la pire menace qui pèse sur leur pays, ce sont les autres citoyens qui ne pensent pas comme eux. Et ça, c'est vraiment du jamais vu. Il y a le climat, il y a la pandémie, il y a l'économie, il y a les menaces extérieures. Mais le plus dangereux, ce sont les autres Américains. Je pense que c'est vraiment l'œuvre de Donald Trump. C'est du jamais vu.
Alors, on a parfois la perception que la présidence Trump se traduit aussi, en dépit de certains aspects positifs sur le plan économique, comme le moment où, en fait, la Chine est devenue le concurrent et peut-être la première nation du monde dans bien des domaines. Est-ce que c'est perçu par les Américains ?
Oui. Et la Chine était avant Trump, pendant Trump et par l'équipe de Joe Biden aujourd'hui, perçue comme une puissance dangereuse et hostile, impérialiste, qui est sur le plan militaire, sur le plan géopolitique, avec les avancées en mer de Chine du Sud, sur le plan du commerce, avec des pratiques commerciales pas du tout correctes, sur le plan de l'influence à travers les nouvelles routes de la soie, l'influence en Europe, les investissements en Afrique, mais également, je dirais, sur le plan de la propagande stricte, oui. Puisque la Chine maintenant donne le sentiment qu'elle se sort bien de la pandémie bien et que sûr. Sa méthode, ça marche, et que les États-Unis, et c'est vrai, c'est un désastre. Donc la Chine est montée au fond pendant cette période Trump.
Christophe Decroix, vous êtes le chef de notre service étranger. La politique américaine va-t-elle radicalement changer avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche ?
Il faut quand même se dire que le nouveau président va d'abord se pencher sur les États-Unis. Il y a une pandémie, on le disait, de la Covid qui a été délaissée par l'administration Trump. Il y a les conséquences sur l'emploi, le plan de relance, c'est ça les priorités de Biden. Mais il va dès aujourd'hui, malgré tout, lancer des signaux à la communauté internationale pour dire les États-Unis sont de retour. À commencer, on en parlait, dans l'accord de Paris sur le climat dont s'était retiré Trump. Biden veut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il devrait aussi revenir au sein de l'Organisation mondiale de la santé, intensifier donc la lutte au niveau international contre la Covid et changer de politique aussi en matière d'immigration.
Les relations avec l'Europe n'ont cessé de se distendre pendant cette période. Est-ce qu'on peut imaginer un retour des États-Unis conciliants et amicaux, si je puis dire ?
Alors, l'Union européenne ne sera sans doute plus un adversaire, comme l'avait qualifié le président Trump, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ça restera, cette Europe, un concurrent, en particulier en matière commerciale. Là où on peut espérer une meilleure coordination, c'est sur des dossiers comme le nucléaire iranien. Ouais. Là aussi, Trump avait dénoncé l'accord passé. Du coup, Téhéran s'est largement affranchi de ses obligations et a relancé la course à l'armement nucléaire, Biden devrait chercher les moyens de ramener l'Iran à de meilleurs sentiments en relançant la diplomatie en lien avec les Européens.
Y a-t-il des aspects sur lesquels il n'y aura pas de retour en arrière ?
En fait, il n'y aura aucun retour en arrière. Biden doit prendre en compte la situation telle qu'elle est aujourd'hui, pas comme elle était il y a 4 ans avec Obama. Prenez l'exemple de Jérusalem. Trump l'a reconnue comme capitale d'Israël, alors que ça servait de moyen de pression sur l'État hébreu habituellement par l'administration américaine. Biden ne va pas revenir en arrière, mais en même temps, il lui faudra trouver les voies d'un rééquilibrage qui prenne en compte les Palestiniens.
On repart à Washington pour retrouver Brice Dugeny. Brice, peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le programme de Trump aujourd'hui pour ses dernières heures à la Maison-Blanche ?
Oui, parce que le président sortant, il va bien finir par sortir. Hein. C'est vrai qu'on s'est posé la question de savoir à quelle heure il allait quitter. Officiellement, depuis quelques heures, on sait que ce sera à 8 heures ici, donc 14 heures à Paris. Donc il reste encore quelques heures de présidence, environ 10 heures. Et il avait prévenu qu'il serait président jusqu'au bout. Eh bien, dans son programme, il y a eu, on l'a appris il y a une heure, notamment des grâces présidentielles. Il y a une liste de 173 noms qui a été éditée par la Maison Blanche. Et parmi ces noms, eh bien, on a trouvé, vous savez, Steve Bannon, c'est son ancien sulfureux conseiller politique qui était poursuivi pour fraude. Et bien donc Donald Trump, quelques heures avant de quitter la Maison Blanche, a décidé de le gracier. En revanche, on pensait qu'il y aurait Julian Assange, mais finalement non. Et il pourrait y avoir encore des grâces dans les heures qui nous séparent de son départ. Vous savez, hier il a enregistré une vidéo dans laquelle il s'est félicité de son travail avant de partir. Donc départ à 8h du matin, donc 14h heure de Paris, direction Palm Beach en Floride, où il débutera sa nouvelle vie dans sa résidence de Mar-a-Lago. On ne sait pas s'il suivra la cérémonie d'investiture à la télé, mais débutera sa vie de citoyen. Et je vous rappelle qu'un ancien président aux États-Unis est un justiciable comme un autre, et donc le début de sa vie pourrait bien être marqué par les affaires judiciaires, c'est-à-dire l'appel à marcher sur le Capitole, et puis aussi des affaires de fraude fiscale qui lui collent un petit peu à la peau, notamment à New York lorsqu'il faisait des affaires. Voilà à peu près le programme des heures et des jours à venir pour Donald Trump.
En tout cas, nous, on est plutôt rassurés quand il rejoue au golf et de façon stable et durable. Nicole Bacharan, on nous annonce dès la fin de la passation que Joe Biden va signer un bon nombre de décrets. On met en avant un programme intensif en matière de décision pour les 100 premiers jours de son mandat. Est-ce que c'est une réalité ? Parce que l'autre réalité, en tout cas en perception, c'est qu'on a un président de 78 ans qui paraît par certains côtés, on va dire, pas formidablement vaillant. Il va lancer tout ça ?
Oui, il va lancer tout ça. Je trouve qu'il y a une dimension rooseveltienne dans ce qui est annoncé par Biden.
C'est-à-dire ?
La première chose que je dirais, c'est qu'il a constitué une équipe de gens d'expérience qu'il connaît bien, avec qui il a l'habitude de travailler, qui n'ont pas peur de le contrarier, de le contredire, et c'est essentiel dans le fonctionnement de l'exécutif. Et Joe Biden veut... et n'a pas le choix d'ailleurs, veut s'attaquer à bras-le-corps à toutes les crises en même temps, et elles sont extrêmement nombreuses dans son pays. Et les décrets sont prêts, ils n'ont plus qu'à être signés, et ils concernent évidemment le Covid, la distribution et l'achat des vaccins, l'aide économique aux Américains, un énorme paquet, si on appelle ça en anglais, paquet de mesures à faire passer devant le Congrès, des mesures de toutes sortes sur le plan social. Je pense à le développement de l'aide alimentaire. Il y a plein de familles qui ont plus assez à manger. L'aide aux locataires, aux propriétaires, pour qu'ils ne soient pas expulsés de leur logement, l'aide aux étudiants qui non seulement n'étudient pas mais n'ont pas de petit job pour payer leur crédit. Tout cela, il va le lancer en même temps. Il y a des mesures, il va remettre en place les régulations sur les questions climatiques qui dataient d'Obama et que Trump avait défait. Donc là, il y a juste un basculement à faire. Il va appeler les leaders étrangers et en priorité les alliés plutôt que les autocrates. Donc je pense que ça va être un début de présidence très active, avec surtout, et c'est pour ça que j'évoquais Roosevelt, un programme social extrêmement large et ambitieux, avec le sentiment qu'on est dans une situation tout à fait inédite et que là, pour une fois, l'État n'est pas le problème, l'État a vraiment un rôle à jouer.
Il y a donc une forme d'espoir en cette journée si particulière dont nous vous parlons depuis ce matin, 18h, rendez-vous avec toutes les équipes et Thomas Soto ce soir pour vivre, bien entendu, ces événements politiques. Merci Nicole Bacharan, Jean-Mathieu Pernin, Christophe Decroix et Brice Dugeny depuis Washington. Oh, the ramparts we watched were so gallant.
Vous l'entendrez chanter ce soir, il s'agit de Lady Gaga. Nous avons rendez-vous dans un instant avec Louis Bodin pour votre météo à 7 jours. Merci d'écouter RTL. Bonne journée à tous.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
8h36, la météo à 7 jours, Yves Bodin.
Oui, avec beaucoup de choses encore au cours de ces prochains jours. On l'a dit aujourd'hui, le retour des nuages, de la pluie dans l'ouest et dans le sud, encore du temps un peu sec dans les autres régions. Du vent également qui soufflera la nuit prochaine. Attention, une petite tempête pourrait traverser la moitié nord donc dans cette nuit de mercredi à jeudi, avec nuages, pluie, vent, atteignant les 100 km/h peut-être sur le littoral de la Manche. Demain, ça s'accompagnera d'une perturbation qui va traverser toute la France d'ouest en est. Ça sera de la pluie en plaine, mais de la neige en montagne en arrivant sur les frontières de l'Est. Cela épargnera le littoral méditerranéen où nous aurons du Mistral et de la Tramontane. Vendredi, c'est dans la moitié sud. Une perturbation va circuler avec là encore beaucoup de vent de l'Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Pluie en plaine, neige en montagne. Samedi, en voilà une autre qui va traverser toute la France avec encore du vent assez fort, notamment sur les côtes. Et puis attention, dans la nuit de samedi à dimanche, avec le refroidissement, ça pourrait bien de nouveau donner de la, plaine, de la neige jusqu'en plaine.
Mais oui, alors, j'allais vous demander si vous avez la chance de voir un peu de neige pendant le week-end.
On a des chances de voir de la neige ce week-end, de la Normandie jusqu'à l'Île-de-France, sur les régions du Nord-Est, là c'est quasiment sûr, en montagne également. Donc ça, à partir de samedi soir, la nuit samedi à dimanche, peut-être une bonne partie de la journée de dimanche, et puis encore un petit peu lundi, avant peut-être une petite amélioration en milieu de semaine prochaine.
Très bien, nous allons continuer d'observer tout cela grâce à vous. Merci beaucoup, Louis Bodin.
RTL, vous êtes comme ça.
À Paris, c'est un véritable combat porté à bout de bras par une poignée de bénévoles. La scolarisation des mineurs étrangers isolés qui ne sont pas reconnus par l'État. Située dans le 12e arrondissement de Paris, l'école des sans-écoles, c'est son nom, est une association qui s'est créée il y a 2 ans hors des radars de l'éducation nationale. Bonjour Nicolas Burnand.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Chaque semaine, des migrants âgés entre 15 et 18 ans suivent des enseignements de français, mathématiques ou encore d'anglais. Pour RTL, vous avez suivi le travail de cette association.
Oui, dans ces anciens locaux industriels, 2 petites pièces étroites font office de salle de classe, quelques tables alignées, des chaises, un grand pupitre et un tableau noir.
Le sang amène le glucose aux cellules. Il y a une réaction.
Ils sont une petite dizaine d'élèves, des garçons surtout, à suivre un cours de SVT.
Qu'est-ce que c'est que cette énergie ?
On a besoin d'énergie pour être en mouvement.
Tous partagent une envie viscérale d'apprendre, explique Marie-France, la professeure bénévole.
Ils sont très demandeurs d'instruction par rapport à notre enseignement. Ils pourraient réintégrer une première ou une terminale.
Les yeux plongés dans son cahier, Israël est originaire de la République démocratique du Congo. Il était scolarisé plusieurs années dans son pays avant d'arriver en France.
Dans mon pays, j'ai fait la chimie et la biologie. J'ai quand même une connaissance. L'éducation, c'est la première des choses. C'est quelque chose de très émouvant parce que après avoir vécu ce que j'ai vécu, tout le monde n'a pas ces chances-là.
L'association suit plus de 150 mineurs étrangers isolés. Marie-France, la professeure aujourd'hui retraitée, est une ancienne salariée de l'éducation nationale.
J'étais sidérée de voir des enfants aussi grands, presque des analphabètes à notre époque. La plupart, leur minorité n'est pas reconnue et par conséquent, ils ne sont pas pris en charge. C'est de ça dont ils ont besoin, d'éducation. Pour survivre.
Pour tenter d'être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ces adolescents ont souvent intenté un recours judiciaire contre l'État. Max est un jeune Ivoirien de 16 ans. Il dort dans une tente, parfois dans un hôtel géré par Médecins Sans Frontières. Malgré les difficultés, il suit les cours plusieurs fois par semaine.
Le temps que tu aies une situation régularisée, tu te retrouves encore angoissé. Dans une classe où on apprend à se connaître et on apprend à rigoler avec le prof et qu'il nous apprenne des choses, c'est une énorme satisfaction pour nous. On a le droit d'aller à l'école.
Il a peu à peu retrouvé un rythme. Se lever le matin, respecter des horaires, rendre des devoirs. Grâce à l'association, il a même passé des tests d'évaluation pour tenter d'accéder au cursus classique de l'éducation nationale.
Moi, j'aimerais obtenir mon bac, se projeter, je dirais, dans une vraie école, être comme un citoyen français.
À force de se battre, en septembre dernier, une quarantaine d'élèves ont fait leur rentrée à l'école ou dans une formation professionnelle. Stéphane Laplanche est le président de l'association.
À leur place, je ne sais pas si j'aurai le courage et l'abnégation d'aller en cours sans savoir d'ailleurs si je vais être reconnu mineur, si je vais pouvoir continuer mes études. Tous les jeunes qu'on scolarise finissent par avoir des super bulletins, être premier de leur classe et les profs redemandent des jeunes comme eux. On ne peut pas mettre en doute ça.
Il y a quelques semaines, Max, le jeune Ivoirien, a intégré une classe d'accueil dans un lycée des Hauts-de-Seine. Une première victoire dans ce long chemin vers son intégration en France.
Doivent d'abord parvenir jusqu'aux cellules.
On a le droit d'aller à l'école, vient de nous dire l'un de ces jeunes migrants. Merci beaucoup Nicolas Burnand de nous avoir fait découvrir donc l'école des sans-école. Et si vous souhaitez en savoir plus ou aider l'association, rendez-vous à l'adresse www.droitalecole.org. www.droitalecole.org.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h41. Ce matin, Isabelle Choquet, vous inquiétez pour les marins du Vendée Globe, enfin, seuls, tellement seuls en mer.
Oui, Yves, car quand on parle du tour du monde en solitaire, on comprend bien qu'il faut se débrouiller tout seul pour naviguer, pour gérer le bateau. Mais en fait, il faut se débrouiller tout seul pour tout, y compris pour le sexe. Eh oui, et c'est le Figaro qui a mené l'enquête sur ce sujet extrêmement délicat et assez tabou. Oui. D'ailleurs, certains ferment immédiatement la porte de la chambre. C'est mon intimité, je suis pas Brigitte Lahaie. Ça, c'est la réponse de Nicolas Troussel quelques semaines avant le départ. Seule confidence, oui, en mer, on a des pensées et des rêves. Débrouillez-vous avec ça. Romain Attanasio est un peu plus précis. Un gars tout seul, oui, plus de 3 mois, c'est long, dit-il. Forcément, on y pense. J'imagine que tous les skippers emportent des photos ou des films. Et si ce n'est pas le cas, ses copains s'en chargent pour lui. Et oui, à Noël, comme cadeau, Romain a eu un livre sur les mémoires d'un acteur porno et une balle anti-stress en forme de sein. Parlons-en du stress. C'est prouvé, plus on est stressé et fatigué, moins on a de désir. C'est le cerveau qui décide, il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas aux marins, c'est ce que dit le sexologue Damien Mascret. En revanche, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, la libido augmente au bout de 3 semaines, alors qu'elle a tendance à s'atténuer au bout de 2 semaines chez les femmes. Confirmation avec Clarisse Kremer. Le sexe en mer, pour moi, c'est pas un manque, je suis dans une autre atmosphère. Maintenant, elle le reconnaît, on n'est jamais à l'abri d'un rêve érotique. Ce qui est certain, c'est que les petits plaisirs se paient parfois très cher. Sur la Transat AG2R, Transat en double, un marin se souvient avec émotion d'un câlin inoubliable, mais aussi de la place qu'il a perdue au classement. Oui. On ne peut pas tout avoir. Sur le dernier Vendée Globe, il se raconte qu'un skipper qui s'était offert un peu de détente en solo a ensuite déchiré une voile, puis une deuxième, avant de heurter un ovni, un objet flottant non identifié. Punition divine peut-être, un trouillomètre au plafond, en tout cas, libido à zéro et donc problème réglé. Sur ce même Vendée Globe, un navigateur avoue une drôle de mésaventure le soir de la Saint-Sylvestre. Comme je souffrais vraiment de la solitude, j'ai surfé sur YouPorn. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu rallumer mon ordinateur, eh ben, il était totalement planté.
Oh non.
J'ai appelé au secours, si. Le technicien a cherché. J'ai bien été obligée d'avouer sur quel site j'avais navigué. Et il m'a dit, ne cherche pas, tu as chopé un virus. Mon ordinateur était définitivement vérolé. J'ai dû passer sur la machine de secours. Comme quoi, même tout seul, on peut choper des saletés. Tout ça, ça fait réfléchir. Le sexe en mer, Jean Le Cam a fait une croix dessus. Je n'ai pas embarqué de film porno, dit-il, c'est pas mon truc. Et puis, il y a du boulot en mer. Je suis plus concentré sur faire fonctionner tous mes trucs que de faire marcher mon machin. Ça, c'est du Le Cam. Certes, Le Cam a 61 ans, c'est le doyen, mais Louis Burton, lui aussi, est plus concentré sur sa course que sur la gaudriole. Je n'y pense pas, dit-il. La tête est ainsi faite. Quand tu es dans la survie, elle classe en choses inutiles, ce qui n'est pas prioritaire. Burton est deuxième et n'a pas dit son dernier mot, mais pour ce qu'on en sait, la réussite fait grimper le taux de testostérone et donc le désir. Si je peux me permettre, c'est le serpent qui se mord la queue. Si, sexe, un seul, une belle enquête à lire ce matin dans le Figaro.
Si j'ai bien compris, rendez-vous à l'arrivée.
Absolument.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Dans un instant, nous serons avec Laurent Gérard.
Calvi sur RTL.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. La cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis aura lieu aujourd'hui à Washington, bien sûr. L'administration Trump devient donc l'administration Biden. Faisons le point avec l'un de ses membres, John Rombo.
Doucement, petite grenouille, tu m'as réveillée.
C'est vrai qu'il fait encore nuit chez vous, là.
C'est pas ça. Mais j'ai été obligé de me mettre à mon nouveau régime, le régime Biden. Infusion à la camomille matin, midi et soir. Avec Donald, on carbure au coca, au Red Bull toute la journée. Avec Sleepy Joe, faut carrément que je me mette des allumettes dans les yeux pour pas piquer du nez.
C'est le seul changement notable ?
Non, il n'y a pas que ça.
Ah bon.
Le programme télé aussi, il a changé à la Maison Blanche.
Oui.
Avec Donald, c'était Fox News en boucle toute la journée, avec des infos qui font peur, c'était bien. Avec Joe, on est obligé de mater la version ricaine des chiffres et des lettres, on se fait chier.
C'est sûr que ce n'est pas la même ambiance.
C'est vrai. Oui. Avec Donald, on savait s'amuser. Quand on avait bien travaillé à regarder les infos qui font peur à de Fox News, pour se détendre, on se passait des films de guerre avec des grands blancs qui transforment des petits gnaquets en rouleaux de printemps. Joe, à tous les coups, il va nous mettre des comédies romantiques à la con, j'en peux plus.
Bon, le plus important, c'est la politique.
N'en parle pas.
Oui.
C'est une catastrophe. Avec Donald, politiquement, on voyait grand. On construisait un mur immense pour éviter que les bouffeurs de tacos viennent manger les hamburgers des bons américains. Pour le vieux Joe, les seuls grands travaux qu'il a lancés, c'est l'installation de sa baignoire à porte et de son monte-escalier.
Bon, vous avez des nouvelles de Donald Trump ?
Ne parle pas de ça, petite grenouille. Oui. Tu vas me faire pleurer comme une fillette.
Ah bah alors, racontez-nous, on adore John Rambo, ça vous fera du bien.
Depuis Twitter, il a fermé son compte, mon pauvre Donald, il est tout désœuvré. Alors à la place, on lui a installé Candy Crush sur son iPhone, mais il n'arrive pas à passer le niveau 1. Voir mon Donald buter sur le niveau 1 de Candy Crush, c'est d'affreux. J'arrive pas à me sortir ça de la tête, tu comprends?
C'est vrai qu'on décroche.
Oui, c'est sûr. Lors de ses vœux au corps constitué, François Bayrou s'est prononcé sur la nouvelle palissade autour du skatepark près de la gare de Pau. Vous le saviez, monsieur Kennedy ?
Du tout.
Eh bien voilà. Bonjour, monsieur Bayrou.
Hop, 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 hop. Ce n'est pas le maire des patineurs à roulettes à casquette qui vous fait face, mademoiselle Jade. C'est le haut commissaire au plan.
Alors justement, on attend toujours votre plan.
Avec le plan que j'ai dans ma grosse tête toute rouge, je vais non seulement sauver la France, mais aussi le monde. Avec mon plan, I believe, I can fly, I believe, I can touch the sky.
Très bien, mais c'est quoi votre plan ?
Pour que les Français ne se contaminent pas entre eux, j'ai un plan.
Lequel ?
Ils doivent être tous vaccinés. Vous êtes impressionné, hein ? Il y en a là-dedans.
Ah, c'est très impressionnant. On ne l'aurait pas deviné tout seul, ça.
Quant au problème de déjection canine devant la salle polyvalente Saint-Jérôme, dans la zone commerciale de Pau, entre la halle aux chaussures et le Kiloutou, j'ai aussi un plan. Mais il mérite d'être fignolé.
Voilà, c'est bien. Merci, François Bayrou.
Appelez-moi commissaire, haut commissaire. Oui.
Nous en parlions la semaine dernière, 2021 sera une année Mitterrand avec notamment le 40e anniversaire de son accession au pouvoir, l'occasion de faire un tour d'horizon de son héritage. Commençons en imaginant comment le président Mitterrand aurait communiqué sur la crise sanitaire que nous traversons.
Mes chers compatriotes, la France traverse une période un peu particulière. J'en suis bien conscient. Certains d'entre vous, comme Carole Bouquet, sont inquiets. Je le sais, puisque je les écoute. Mais je vous le dis, les yeux dans les yeux. N'écoutez pas les Cassandres qui vous disent que ça va mal. Les forces de progrès sont en marche et elles terrasseront le virus comme nous avons vaincu le chômage et les inégalités. J'ai confié la sécurité des vaccins à Laurent Fabius et à Georgina Dufoy. Vous pouvez y aller. Ils ont tous été chauffés par la Croix-Rouge. J'ai aussi demandé aux artistes de gauche de faire un disque contre la pandémie autour de Barbara, Harlem Désir et Michel Piccoli. Tous les bénéfices et Jacques Higelin. Tous les bénéfices iront à l'Institut de recherche contre le coronavirus de Jacques Rosemary.
On est en confiance. Voilà.
Quant à moi,
tout va bien.
Comme vous pouvez le voir, je vais de mieux en mieux. J'ai été vacciné contre la mort par mon médecin, le bon docteur Gubler. Je ne vous abandonnerai pas. Et puis, surtout, Elisabeth Tessier, la voyante qui lit dans mes boules est formelle. Le virus disparaîtra si vous votez socialiste au régional. Vive la République, vive la France.
Eh bien justement, bonjour Jack Lang.
Chèque du coude, les cousins. Cette année dédiée au président Mitterrand me requinque, me rajeunit, me rebooste.
Mais c'est vrai que vous avez été un fidèle compagnon de route du président Mitterrand.
Et comment non, Edmond? L'année Mitterrand, c'est Bibi. Souvenez-vous, il y a 40 ans, quand nous sommes passés de l'ombre à la lumière, c'est moi qui tenais la lampe. Je portais des chemises à col Mao qui faisaient hurler d'horreur Catherine Ney.
C'était chier, non? Devant la bronca, j'ai dû passer aux chemises à carreaux Vichy.
Ah oui.
Et aux excellents costumes Smalto. Mm. Et ensuite, mes deux septennats ne furent qu'un feu d'artifice d'idées nouvelles.
D'idées de quoi, au juste?
Mais d'idées de fête, Bernadette. Ah, la fête du livre, la fête de la poésie, la fête des voisins, la fête du cinéma, la fête de la musique, la fête à neuneux, la fête du slip.
D'accord, pas la peine de toutes nous les rappeler non plus.
Et c'est pourquoi il faut que cette année Mitterrand soit une année méga festive.
Oui, ça a l'air plutôt mal parti, vu la situation sanitaire, non?
Mais enfin, pourquoi ne pas organiser une fête de la blouse pour les soignants, une vaccin parade dans les EHPAD ou une chloroquine pride à Marseille? Un peu d'audace, merde!
Le Parlement a lancé une consultation citoyenne sur le cannabis récréatif afin de prendre en compte l'opinion des Français sur cette substance très populaire. Hein. C'est le thème du nouveau numéro de Silence ça pousse, la célèbre émission de notre ami Stéphane Marie.
Bonjour, bonjour. On commence avec le dicton du jour. Si t'es scotché dans le canapé, c'est que t'as abusé du tarpé.
Bon, alors Stéphane, quel type de cannabis conseillez-vous? L'afghan ou le marocain?
Le berrichon.
Le berrichon? Je ne savais pas que ça existait.
Moi non plus.
Oh là là, mais quelle énigode. Je dis le berrichon comme j'aurais pu dire le breton ou l'alsacien. Ce que je conseille, c'est le Made in France, comme Arnaud Montebourg, car on peut facilement faire pousser dans son jardin.
Mais comment s'y prend-on, Stéphane?
C'est facile, on bine, on bine, on bine, on plante, on plante. On dépote, on rempote, on arrose généreusement, on attend que ça pousse, on cueille, on sèche et on roule.
En même temps, je suis pas concernée, je suis pas fumeuse, moi.
C'est pas grave. Si vous ne fumez pas, vous pouvez aussi faire des gâteaux au cannabis ou en acheter à la pâtisserie de Cyril Lignac. Je vous conseille notamment son marbré à la ganja ou sa charlotte au tochi. Vous allez vous régaler. Alors, bonne dégustation et à la semaine prochaine.
Ah mais non, mais ça passe trop vite, écoutez, c'est pas possible.
Ben oui,
mais
oui, c'est comme ça.
C'est Stéphane Marijuana.
Ah bah oui, le temps s'arrête en voilà. Même temps, il y a deux choses.
On revient demain.
Mais à oui, demain. Revenez demain et d'ici là, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Merci à toute l'équipe.
À demain.
Merci.
Alors ces produits ne sont évidemment pas en vente dans vos pâtisseries, cher Cyril, mais dans un instant, vous allez nous donner une excellente recette de boulettes. Ça m'intéresse beaucoup, à tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Cher Cyril Lignac, Panayotis, qui est un très joli prénom grec, nous dit la chose suivante. Mes enfants me réclament souvent des boulettes, mais je sers des choses honteuses qui s'effritent en prime trop cuites. J'ai besoin de retrouver une crédibilité culinaire vis-à-vis de ma famille, surtout que les boulettes pour les Grecs, c'est quelque chose. Ma femme me soutient, mais plus pour très longtemps. Merci Cyril, voilà, allez-y, débrouillez-vous avec ça.
Alors, moi j'adore ça, les boulettes. Il y a plein de manières de la faire. Là, je fais vraiment les boulettes typiquement italienne, que je fais cuire dans la sauce tomate et ensuite je fais avec des pâtes ou du pain grillé. Alors je prends 300 g de viande hachée de bœuf et je la mélange avec 300 g de viande hachée de porc.
Oui.
Si on peut aller chez le boucher, souvent les bouchers ils font des farces, qui préparent eux-mêmes à base de porc, de veau, de bœuf, ils y mettent de l'ail, des oignons, elle est déjà assez parfumée. Si on peut acheter ça, alors on prend ces 600 grammes de chair, ce que j'appelle la saucisse, préparée. Sinon, on la fait soi-même. Si on la fait soi-même, on ajoute 30 grammes de parmesan râpé. On y ajoute 2 œufs.
Oui.
On commence à mélanger. Ensuite, moi, j'y ajoute de la ricotta. Donc, je prends de la ricotta que je mets à température, que je bats avec la spatule pour la rendre tendre. Je l'ajoute à l'intérieur de ma farce. Je mets du persil haché, du pain que je trempe dans du lait, donc du pain avec de la croûte, ou on peut soit y mettre que de la mie de pain aussi.
100 grammes de pain, c'est ça?
Oui, 100 grammes de pain. Donc, en fait, on met du lait. Donc, je dis pas exactement la proportion, mais on fait tremper. Et après, on prend le pain et on le presse bien pour extraire le lait.
D'accord.
On met à l'intérieur du sel, du poivre. Et ensuite, on se farine un peu les mains et on forme les petites boules. Tout de suite, on fait chauffer une poêle. On fait revenir les boulettes dans la poêle pour qu'elles caramélisent un petit peu. Et ensuite, on les met dans de la sauce tomate. Donc, des boîtes de sauce tomate traditionnelle. Et là, on laisse mijoter assez longtemps, tranquillement à petit feu. On peut rajouter une feuille de basilic. Et à côté, ben, soit on fait des pâtes, soit on met, en Italie, on le mange souvent, on met du pain grillé. Et après, on fait comme on veut.
J'ai faim, je vous remercie. Il est 9h.